Dans le tempo, c'est le 37e épisode. Je l'avais mal dit, alors je l'ai refait. On y va. Comment ça va, Daz?
Ça va super, et toi, Salman?
Ouais, je me suis planté sur mon intro un peu. J'ai mal prononcé
ouais,
37e,
ouais.
Et c'est difficile
toujours,
à dire.
Tu vois, cette voix
oui.
De Stentor, hein, avec
oui.
Vraiment une intention. Tu vois,
c'est... Le dynamisme, de...
ouais, ouais, ouais.
Le plaisir d'être là.
C'est la 37e et c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Moi,
absolument.
Je suis charmé.
Puis tu sais, on a quand même une responsabilité avec ce podcast, la responsabilité de faire une bonne émission.
C'est vrai.
De le faire avec entrain, avec
oui,
plaisir,
c'est vrai.
Que ce soit intéressant.
C'est vrai.
On a quand même la réputation, on est le meilleur podcast de musique, on peut le dire.
Ouais.
Voire le meilleur podcast du monde tout court.
Alors, dans les deux cas, ça se discute. Mais moi,
bon.
Je suis plutôt d'accord. Non, mais je suis plutôt d'accord.
Bah oui.
Sachant que
aussi,
si de toute façon, t'as pas le premier podcast musical,
ouais.
C'est que c'est moi qui l'ai.
C'est vrai.
Avec Six and
Peut-être qu'on est les deux meilleurs podcasts de musique du monde.
Ouais. En fait, moi, je suis dans le top 2, donc je m'en fous.
C'est vrai, mais ouais. Moi aussi, ça me va le top 2.
Allez, let's go.
Comment ça va, toi?
Ça va très, très bien.
C'est vrai.
On peut dire à nos auditeurs, / spectateurs, que nous
oui.
sommes en 2023.
Absolument.
Eh oui, donc bonne année, meilleurs vœux.
Oui, on vous souhaite plein de chouettes moments musicaux, plein de musique, plein de trucs cool.
L'argent, la santé.
Et surtout d'écouter beaucoup DLT.
Beaucoup.
Voilà.
Beaucoup, beaucoup. Et pour le reste, bah écoute, la vie suit son cours. Hein. Moi, j'ai
fait.
La même résolution que l'année dernière, c'est-à-dire essayer de ne pas mourir. Et
ouais.
Globalement, on en reste là, quoi.
C'est pas mal comme
ouais,
projet.
Ouais, c'est chouette, un programme plutôt cool. Ouais.
Écoute, je vais essayer de suivre tes pas.
Ouais, c'est pas mal.
Je vais essayer de rester en 2023.
Je le conseille à tout le monde.
C'est joyeux. Votre
oui, est-ce que c'est votre projet de rester en vie en 2023,
c'était
les gars?
C'était un beau projet. C'était pas un projet
tout.
Initial, mais je le mets sur ma to-do list.
Mais on en parle pas assez. Ouais. On en parle pas assez.
Je pense que
c'est acquis. On pense que c'est acquis. Et puis, des fois, on en
a. Arrêtons là. Ça commence vraiment à devenir chelou, là. On est avec Manuel Moussalam et Thomas Bouab. Manu Thomas, merci d'être dans cette émission avec
merci.
Nous.
Merci, première de l'année, bravo.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup. Est-ce que, Daz, c'est la tradition?
Ouais.
Je présente les gens.
Tu présentes.
Je présente les gens. Manu Thomas, vous bossez chez Deezer. Deezer, plateforme de streaming évidemment reconnue.
Française.
Vous avez chacun un poste assez spécifique. Vous travaillez autour... de la recommandation notamment. Alors Manu, toi tu es, alors je prends parce que c'est en anglais, tu es le Director of Research.
Tout à fait, c'est ça mon titre.
Thomas, tu es le Director of Data Science.
Ouais, voilà.
Alors,
on précise que la recherche, c'est pas juste la recherche des artistes dans la barre de recherche de Deezer, ça va plus
si,
loin.
Si, toute sa journée, c'est ça. C'est bon, ça marche.
Directeur de la recherche.
Et okay. En plus, c'est Thomas qui s'occupe de la recherche.
Je m'en occupe aussi, effectivement. Ouais, tout à fait.
Bon, ça fait quasiment une dizaine d'années que vous bossez pour Deezer, tous les deux. On va essayer dans cet épisode, on a des gens vraiment qui sont dans la machine.
Ouais.
Et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne un algorithme, comment fonctionne la recommandation, quels sont les enjeux, les défis aussi autour de la recommandation. C'est absolument passionnant parce que bah dans le monde de la musique aujourd'hui, les plateformes de streaming ont une place évidemment importante, l'écoute c'est essentiel. Et moi ça fait très longtemps que j'ai plein de questions que j'espère comprendre comment ça se passe. Vous allez nous aider les gars.
Avec grand plaisir.
On va essayer. Est-ce qu'on pourrait faire pour commencer? Première partie, vous s'arrêtez un tout petit peu sur votre métier, sur ce qu'est Deezer, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on connaît globalement Deezer, mais comment vous considérez le métier de Deezer? Quelle est l'activité de Deezer en interne? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le but de Deezer?
Bah, Deezer, c'est une plateforme de streaming musical. Donc c'est d'abord et avant tout permettre l'accès à un énorme catalogue musical à des millions de gens partout sur la planète et n'importe quand et dans n'importe quel contexte. C'est d'abord ça la mission principale.
Okay.
Et ensuite, il y a tout ce qui va pouvoir se développer autour de... fournir des points d'entrée dans le catalogue, de l'aide pour que les gens puissent naviguer, parce qu'en réalité, personne ne peut écouter 90 millions de titres dans une vie.
C'est la taille du catalogue, ça.
C'est la taille du catalogue, ouais. Okay. On peut revenir sur le chiffre plus tard, si vous voulez, parce qu'il y a des façons de compter, machin, mais en gros, admettons qu'on a 90 millions de titres, aucun d'entre nous peut les écouter. Ça n'a pas de sens. On a besoin de points d'entrée, des points d'entrée qui peuvent être soit de la recommandation, soit des recommandations éditoriales, soit... des outils comme la barre de recherche ou des outils de parcours de catalogue, des choses comme ça. Et donc Deezer, c'est l'ensemble de ces fonctionnalités qui permettent à des utilisateurs, des millions de gens partout sur la planète, d'accéder à des millions de titres dans n'importe quel contexte.
Est-ce qu'il y avait pour la plateforme une fonctionnalité technique spécifique? Par exemple, on se rappelle qu'à l'époque de Spotify, ils mettaient tout sur le fait que tu avais l'impression que la chanson était en local, que quand tu cliquais sur lecture... ça démarrait quasi instantanément. Est-ce que côté Deezer, il y avait comme ça un petit truc qui était la cerise un peu tech sur...
D'ailleurs, ce qu'on peut dire, pardon, juste, c'est que Deezer se lance un tout petit peu avant Spotify. C'est, en tout cas, c'est à peu près la même période.
C'est la même période, quelques mois avant, 2007, effectivement, 2008, parce que Deezer a 15 ans, plus de 15 ans maintenant. Donc, oui, c'était à ce moment-là, où c'était le moment où, je pense que nos Deezer ont peut-être oublié le moment du piratage, où vraiment on écoutait la musique beaucoup via des MP3 piratés. C'était une situation sinistrée pour l'industrie de la musique. Et puis Deezer, puis Spotify est arrivé et a réussi à offrir un accès à la musique très peu cher aux utilisateurs, une alternative.
Et même une part gratuite.
Une part, oui. Tout à fait, via les modèles gratuits aussi. Et donc, ça a vraiment transformé l'industrie qui était vraiment, vraiment mise à mal par toutes ces questions-là et qui a réussi à... à offrir une offre légale et un accès sans commune mesure à la musique. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que on n'a jamais eu autant et aussi facilement accès à la musique. Et c'est là aussi où j'interviens, on en parlera, c'est que presque trop accès à la musique, comme Manu en parlait.
Ouais,
et c'est là,
choix, c'est...
trop de choix, il n'y a plus de choix. Et du coup, c'est là où mes équipes interviennent en recommandation dans le moteur de recherche. Et aussi, les équipes éditoriales, on en parlera aussi, c'est extrêmement important d'avoir toute cette galaxie-là pour redonner un peu de sens et redonner de la direction pour que les utilisateurs puissent naviguer dans tout ce catalogue énorme.
Et comme le demandait Daz, est-ce qu'il y a une...
Ouais, est-ce qu'il y avait un petit... Enfin, vraiment un
plus-value,
un truc de techos, tu vois, où ils se sont dit, avec ça, on va tuer le marché, c'est ça qu'on veut mettre en place.
Alors, ça date un peu d'avant que nous, on arrive chez Deezer, mais c'est vrai que, en 2007, streamer de la musique via Internet, techniquement, c'était pas donné à tout le monde.
Oui, parce qu'avant, il y avait du buffer, du chargement, voire du téléchargement.
Ouais.
Et puis, le grand bouleversement du streaming, c'est on appuie sur un bouton, ça arrive.
Ouais, puis, enfin, tu vois, coder des sites internet qui étaient capables de gérer des connexions qui peuvent être instables, de bufferiser des bouts d'audio puis de les enchaîner correctement et tout ça. Aujourd'hui, ça paraît complètement trivial parce qu'avec ton téléphone, la vidéo s'arrête jamais et les tuyaux sont tellement gros que tout passe.
Oui.
Mais en fait, à l'époque...
Oui, il n'y avait pas la 4G, pas tout ces trucs-là.
Il n'y avait rien du tout. Il y avait l'ADSL et il fallait faire passer la musique dans l'ADSL. Et ça, je pense que techniquement, c'était assez ouf. Ouais.
Vos métiers... Pour qu'on parle un peu de votre poste, ce que vous faites chez Deezer, est-ce que chacun, vous pouvez nous dire un peu en quoi consiste votre fonction au sein de cette boîte?
Vas-y, commence Thomas.
Très bien. Moi, j'appelle ça le département Data Science. C'est globalement tout ce qui couvre les algorithmes de recommandation et algorithmes du moteur de recherche également.
Ok.
Et donc voilà. Donc
il faut déjà diviser les deux, la recommandation et la recherche.
Oui, dans les intentions et derrière dans la technique un petit peu, mais tout ça a vocation justement à converger. Où dans les intentions, le moteur de recherche est vraiment là pour donner un accès à l'utilisateur à des morceaux, à des albums que l'utilisateur connaisse. Donc, ils vont aller volontairement chercher ces morceaux-là. Donc, c'est un accès vraiment direct. Tandis que la recommandation est plus un aspect de proposition. C'est-à-dire que là, l'utilisateur ne sait pas ce qu'il a envie d'écouter et on va du coup lui proposer des titres, des albums, lui suggérer des choses. Et donc finalement, c'est deux notions d'accès au catalogue, mais d'une manière un petit peu différente. Donc derrière, il y a des techniques qui sont un petit peu différentes et aussi il y a plein de choses qui sont très très proches. C'est pour ça que c'est dans une entité, et donc les gens se parlent, partagent leurs techniques, etc., etc.
Ça veut dire que si moi j'utilise la barre de recherche de Deezer, le programme me ramène vraiment l'information brute. Il n'y a pas de manipulation des résultats pour me donner quelque chose qui corresponde par exemple à mon profil d'utilisateur ou quelque chose comme ça.
C'est très léger et puis il y a toujours des mécanismes pour y arriver. Et surtout, c'est parce qu'en fait, ça c'est vraiment une problématique dans la recherche, c'est-à-dire que avec les 90 millions de titres, c'est très compliqué, même avec une simple requête, de demander quelque chose, de trouver les bonnes choses. Un exemple extraordinairement simple, c'est quand on va chercher le nom d'un artiste, il peut y avoir des milliers d'artistes qui ont le même nom. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à trouver quand même les artistes qui sont le plus proches possible. Et après, si on affine dans la barre de recherche, effectivement, on peut aller creuser de plus en plus. Mais on ne va pas aller cacher des résultats dans la barre de recherche.
Ce que tu nous dis, c'est que c'est vrai qu'on a souvent en tête la recommandation, mais même que la simple recherche, elle aussi, il y a des défis techniques et une nécessité d'intervention pour être certain que la personne tombe sur ce qu'elle recherche.
Et alors, l'un des problèmes majeurs des moteurs de recherche, pas que de la musique, de tous, c'est que nous tous, moi aussi particulièrement, en fait, on écrit n'importe quoi et n'importe comment. Et en fait, l'un des gros travails derrière des équipes, c'est d'arriver à trouver des algorithmes qui arrivent à corriger les fautes, les typographies, donner des suggestions en disant « Ah, t'as tapé ça, mais tu t'es peut-être trompé, c'est plutôt ça que tu voulais dire. » Et alors l'utilisateur peut dire « Ok, c'est vrai. » Et donc, il y a un énorme travail de correction de la typographie. Ouais. Et donc là, il y a derrière des algorithmes qui font ça.
Data science, alors on pense aux données parce qu'en fait, ce que tu nous décrivais, ça passe par la gestion, par gérer des données.
Ça gère par gérer les données, ça passe par trier les données, ça passe par analyser les données, ça passe par des modèles qui vont apprendre des choses, des données existantes, pour pouvoir du coup après fournir des résultats. Donc oui, la data science, c'est un terme un petit peu fourre-tout aussi, on va pas se le cacher, mais qui est globalement le traitement de la science de la donnée, qui est un mélange de mathématiques, d'informatique, et qui va du coup derrière créer des algorithmes qui vont aller fournir les résultats.
Il y a vous faites appel à l'intelligence artificielle, parce que c'est un truc qui est dans l'air du temps.
C'est
en ce
un
moment,
truc qui est un air du temps, effectivement, et en fait, on fait de l'intelligence artificielle, mais moi j'aime pas ce terme-là, mais c'est vraiment purement personnel, parce que je trouve qu'il y a un énorme imaginaire derrière le terme. Et que souvent on pense en boîte noire, on pense souvent aussi en référence de science-fiction,
singularité,
HAL, etc. Et moi, j'ai un propos qui est beaucoup plus... Enfin, c'est un point de vue que je maintiens et que je pousse presque, je ne vais pas dire de manière militante, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas de dire que nous, ce qu'on fait, c'est à la fois plus simple, c'est des modèles mathématiques dans lesquels on a du contrôle, qui ne sont pas des boîtes noires qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça que je récuse un peu le terme d'intelligence artificielle et que je suis plus sur les termes un poil plus techniques qu'on appelle machine learning, algorithme, etc., etc. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait.
Toi, Manu, tu es directeur of research. En quoi ça consiste ?
Ben, c'est un peu bizarre.
Ça commence bien.
En fait, c'est une équipe de chercheurs et d'ingénieurs qui cherchent à résoudre des questions scientifiques qui apparaissent au sein du service Deezer, qui sont autour de l'organisation du catalogue musical. Comment on fait pour organiser un catalogue musical? Comment on comprend même, comment on catégorise, comment on organise une collection musicale gigantesque? Comment on peut mettre en relation cette organisation avec des goûts d'utilisateurs? Comment on peut essayer de modéliser des goûts des utilisateurs? Et même des questions un peu plus largement sur la compréhension des... tous les types de relations qui peuvent exister entre les êtres humains et la musique. En fait, pourquoi on écoute de la musique?
Et ça, au sein de Deezer, il y a des gens qui sont employés pour réfléchir à cette
question. Mais oui, c'est incroyable. Mais en fait, oui, parce que c'est fondamental. Ouais. Le but de Deezer, c'est de permettre aux gens d'écouter de la musique. Et pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi on écoute de la musique, comment on écoute de la musique.
C'est-à-dire que vous prenez en compte les moments de la journée, la météo. Non, mais par exemple, vous pouvez faire des relations entre le temps qu'il fait et le fait que les gens écoutent des trucs mélancoliques.
En tout cas, on peut faire des recherches pour essayer de regarder s'il y a des corrélations entre le temps qu'il fait et la musique que tu écoutes. Ouais,
est-ce que parfois ça peut être des approches quasi philosophiques sur la place de la musique dans une société, côté sciences sociales?
Alors, on n'a pas de sociologue dans l'équipe chez Deezer, mais on fait partie de projets de recherche en collaboration avec des musicologues, des sociologues, des gens qui s'intéressent à des questions de consommation de biens culturels en général, et qui travaillent avec nous parce que, via des partenariats, ils peuvent avoir accès à des traces d'écoute qui sont en fait des marqueurs de consommation culturelle assez intéressants pour eux. Donc on a un projet qui s'appelle Records, qui est mené par Thomas Louaille, qui est lui un chercheur dans un labo de géographie. Et voilà, il y a plein de sociologues, plein de musicologues, ils font des entretiens avec des utilisateurs Deezer, et puis on se pose plein de questions sur qu'est-ce que t'aimes, est-ce que ce que t'aimes ça correspond à ce que t'écoutes, et ce genre de choses. Et
j'imagine qu'il y a interaction entre, vous êtes collègues, entre vos deux domaines. Est-ce qu'on peut dire un peu de manière schématique que c'est plus l'application d'un côté et
l'interprétation, la réflexion?
On peut dire de manière schématique, clairement, puisque moi j'ai une équipe qui est un peu particulière, qui est à cheval justement, puisqu'on a un impératif de production et donc de livrer des algorithmes pour un produit. Et en même temps, on a un autre pied du côté de l'équipe de Manu avec des projets en commun et où, du coup, moi, dans mon équipe, il y a un partage des tâches entre de la partie purement technique, ingénierie et de la partie purement scientifique. On a des papiers en collaboration avec les équipes de Manu. Donc, Voilà, on est un petit peu à cheval et on peut vraiment dire ce continuum purement théorique complètement, avec un pied vers l'applicatif chez vous, et puis nous, un pied vers le théorique et un autre...
Mais c'est-à-dire qu'en interne, ton équipe à toi, Manu, c'est plutôt celle qui va tasquer ton équipe à toi sur « tiens, j'aimerais bien que tu me modifies un truc ou que tu... »
Non, pas vraiment. Disons que nous, on essaie de trouver des solutions à des problèmes un peu théoriques, presque. Ouais. Enfin, tu vois, on va essayer de poser scientifiquement un problème et ensuite construire une solution théorique à ce problème, monter une expérience, éventuellement montrer qu'une approche est meilleure qu'une autre, décorréler des contraintes de production.
D'accord.
Globalement, c'est ça qui est vraiment la okay. différence. Ensuite, si on trouve une solution qui peut les aider à améliorer un algorithme,
ils peuvent l'intégrer après.
Ouais. Ensuite, si eux viennent nous voir en disant, bah, là, on a un problème sur cet aspect-là, est-ce que vous pouvez nous faire une modélisation, une expérience pour essayer de trouver ensemble une solution? Voilà, donc les échanges se font dans les deux sens.
Ouais.
Mais voilà, nous, le formalisme, il est plus scientifique, il est plus expérimental. C'est d'accord. un formalisme de recherche. Mais sinon... En pratique, on travaille à côté l'un de l'autre, donc.
On est vraiment.
Tu peux taper sur son épaule comme ça.
Ouais, voilà. C'est clairement ça.
Et accessoirement, enfin, Thomas et moi, on a été embauchés ensemble il y a très longtemps dans la même équipe, et pendant très longtemps, on avait même, enfin, vraiment. Ouais, c'est pas très très différent, quoi.
Ouais. Et est-ce que au sein de Deezer, vos postes, ils sont vus comme cruciaux? Est-ce qu'ils sont au centre quand même de l'activité? Parce que d'après, comment vous le décrivez? On se dit que c'est le cœur de l'activité qui est là. Est-ce que c'est vécu comme ça au travail?
Bien sûr.
Voilà, on va dire qu'on est indispensable. Alors, non, honnêtement, enfin, faut pas exagérer. Mais par contre, oui, la recommandation, le moteur de recherche sont des éléments clés de l'app et sans être les plus importants, on travaille avec de concert avec plein d'autres métiers et plein d'autres fonctionnalités. Mais oui, au sein de Deezer, la stratégie du moteur de recherche, du moteur de recommandation. Du flow, qui est notre feature phare, qui est vraiment différenciant par rapport aux autres concurrents, c'est un élément clé du développement et la différenciation de Deezer. Donc oui, il y a plein d'autres gens qui sont extrêmement importants, mais en tout cas, oui, ce qu'on fait, ça a du sens, ça a de l'impact, et voilà, et c'est perçu aussi comme tel par nos utilisateurs.
Okay. Et le flow dont tu parles justement, qui est du coup le facteur différenciant, c'est quelque chose qui n'était pas là depuis le départ. Ça arrivait quand?
C'est arrivé un tout petit peu avant que j'arrive. Ça consiste en quoi? Alors, la promesse du flow, en tout cas telle qu'on peut le décrire, c'est une radio musicale personnalisée. C'est vraiment, on laisse l'utilisateur appuyer sur le bouton et avec ce simple appui, il va avoir du contenu qui lui plaît, qui s'adapte aussi à ses actions et qui va être entièrement personnalisé. Donc, c'est vraiment une promesse extrêmement riche, extrêmement ambitieuse. Et c'est aussi pour ça qu'on a des équipes qui travaillent depuis des années à itérer, à améliorer les modèles pour être encore de plus en plus précis et vraiment, être en accord avec cette promesse.
On va rentrer dans les détails ensuite, mais peut-être un dernier point un peu sur votre présentation. Est-ce que quand on bosse chez Deezer, en général, on est musicien? Comment on arrive à bosser? Alors vous avez peut-être, notamment toi, Thomas, un profil peut-être un peu plus tech, j'imagine, que...
Ouais, moi je vais déculpabiliser les gens, je ne suis pas musicien, j'aime bien la musique, mais c'est effectivement, moi je viens beaucoup de la partie tech, de la partie mathématiques, c'est vraiment mon parcours, et à un moment donné on se dit, où est-ce qu'on peut travailler? Moi, mes types de rôles de data scientist, on pouvait principalement travailler dans la prédiction de pub, et à un moment on se dit, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus motivant quand on rentre le soir, Deezer, ça fait partie quand même des boîtes en France et aussi des sujets extrêmement intéressants. C'est quand même plus satisfaisant personnellement, je trouve, de recommander de la musique aux utilisateurs que de recommander de la pub. Donc, c'est aussi pour ça, la recommandation dans le milieu culturel en général et dans la musique, c'est quand même extrêmement passionnant. Et c'est ça qui m'a poussé à aller chez Deezer sans être un pur expert musical. Quelques petites connaissances d'amateur, mais en plus, on s'enrichit énormément en contact, déjà, de mon travail, de tous les gens qui sont passionnés par la musique, des équipes éditoriales qui sont vraiment des experts, et donc on apprend énormément aussi de ce côté-là.
On peut bosser chez Deezer et pas aimer la musique?
C'est dur quand
ça,
même.
C'est quand même difficile. Ça, c'est quand même
sauf
difficile.
Sauf si t'es à la compta, du coup.
Mais je pense que même les gens qui sont à la compta ont une forme d'affinité, de passion, ils ont des playlists compta. Non, mais il y a quand même un environnement qui fait qu'on travaille à 10 heures, c'est pas anodin. En fait, c'est pas la même chose, quoi. Il y a quand même une ambiance portée, des enjeux qui.
Ouais, puis il y a quand même un gros intérêt à s'intéresser à la musique, c'est qu'il y a des problématiques très particulières qui émerge, que tu vas appréhender plus facilement si tu t'intéresses à la musique. Tu vois, Thomas parlait tout à l'heure des problèmes d'artistes qui portent le même nom. En fait, si tu considères la donnée musicale comme n'importe quelle donnée, tu vas pas te rendre compte de ce genre de problème et quelque part, tu peux pas comprendre l'importance de distinguer des artistes différents et à quel point ça peut perturber l'expérience utilisateur. Ouais. Il y a plein de choses comme ça que, en fait, en tant qu'amateur de musique et en tant que consommateur de musique, finalement, tu vas être amené à découvrir et donc tu vas essayer de t'intéresser à des problèmes et comment résoudre des problèmes pour les utilisateurs plus facilement si ça t'intéresse.
Ouais. Toi, en l'occurrence, Manu...
ça t'intéresse.
Ça t'intéresse beaucoup.
Parce que tu es musicien aussi à côté, enfin tu fais de la musique.
Amateur, amateur. Mais, et puis surtout, moi, j'ai fait mes études dans le domaine de l'analyse automatique de la musique. Donc, ça existe.
Qu'est-ce qui t'a amené à bosser chez Deezer? Je sais que tu es même passé par l'IRCAM, à un moment.
Ouais, je suis passé, en fait, après des études d'ingénieur, j'ai fait un master à l'IRCAM qui s'appelle ATIAM, qui est un master absolument extraordinaire où tu suis des cours d'acoustique instrumentale, de traitement du signal audio et de musicologie.
C'est pour pouvoir placer des enceintes à 15 000 balles dans un salon de la bonne manière du premier coup.
Exactement.
C'est une façon de voir les choses.
On a besoin d'acousticiens.
Ouais, ou fabriquer les flûtes du futur. Enfin, il y a tout un tas de questions vraiment cruciales pour l'humanité. En tout cas, pour des gens comme moi. Après ça, j'ai fait une thèse dans un laboratoire à Télécom Paris sur essentiellement la compression du signal audio. Donc, en gros, je faisais des codecs audio beaucoup plus efficaces que le MP3 que personne n'utilisera jamais parce qu'en fait, ça prend beaucoup trop d'énergie de les utiliser. Et après ça, j'avoue que je suis assez content d'être tombé chez Deezer parce que c'est pas comme si j'aurais pu...
poser la question.
C'est pas beaucoup d'endroits où j'aurais pu faire concilier à la fois la musique et on va dire le traitement du signal, la science en général.
Rentrons dans la deuxième partie maintenant qu'on a à peu près les bases d'Az, je pense.
Oui.
Quoique si, tu sais ce qu'on pourrait faire avant? C'est peut-être faire un point rapide sur Deezer. On parlait de son catalogue tout à l'heure. 90 millions de titres, c'est ça, si je dis pas de bêtises?
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez quelques
utilisateurs?
Ouais, quelques chiffres clés, utilisateurs en France, à l'étranger, pour qu'on comprenne le positionnement un peu de Deezer.
Bah écoute, tout est public. Donc c'est ça qui est cool, c'est que. Et en plus de ça, t'as retenu les chiffres parce qu'on a essayé de les. Tu les as?
J'ai 9,5 millions.
Ouais, c'est ça qui est.
9,5 millions d'utilisateurs.
9,5 millions d'utilisateurs.
Dans le monde.
Ok.
On est présent dans tous les pays, principalement évidemment en France, Brésil, Allemagne. Voilà pour les quelques chiffres. On l'a dit, 500 employés en France, 600 dans le monde, avec des équipes locales, notamment des équipes éditoriales pour créer du contenu local, des équipes marketing et une bonne partie effectivement des équipes de recherche, de produits qui sont à Paris, dans les bureaux à Paris.
En France, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que c'est encore le cas, Deezer était la plateforme la plus utilisée.
Est-ce que c'est vrai? Je crois que ça dépend comment tu comptes. Mais oui, globalement, on est soit un, soit deux avec Spotify.
Okay. En tout cas, je sais qu'à l'échelle mondiale, Spotify a beaucoup plus d'utilisateurs. Oui. C'est plus compliqué pour vous.
C'est vrai.
Par contre, en France...
les chiffres sont publics.
Oui. Quoique, tu sais que... Il y a pas mal de plateformes où c'est difficile d'avoir vraiment chaque année le nombre d'utilisateurs. Tu tombes sur des chiffres anciens. Quand je fais un peu de petites recherches, j'ai l'impression que pas toujours. Apple Music, par exemple, c'est compliqué.
Apple, ça a toujours été opaque. Je sais pas.
Bref. Et donc en France, c'est une des plateformes les plus utilisées.
Tout à fait.
Est-ce que, ça je sais pas si vous êtes capable de me répondre, mais j'ai l'impression que souvent on met en avant le fait que ça a été un abonnement qui était lié à l'opérateur téléphonique Orange à un moment. Et que ça a participé, mine de rien, à étendre un peu la base d'utilisateurs. C'est un truc que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui, je crois que c'est une stratégie qui a été établie.
Ce partenariat initialement avec Orange a permis de faire décoller Deezer.
En gros, tu prenais ton abonnement téléphonique, tu te retrouvais avec un compte abonnement Deezer.
Ça a aidé dans la stratégie, effectivement. C'est plus le cas maintenant. Donc, du coup, effectivement, notre base d'utilisateurs est vraiment là parce que les utilisateurs ont envie et ont pas du tout forcé par un abonnement conjoint, mais vraiment sont là parce qu'ils apprécient le service.
Il y a eu toute une phase où en fait il fallait un peu, je crois que le terme c'est éduquer le marché. les gens qui font du marketing, ils disent éduquer le marché.
Très bien.
Ou en gros, il faut...
Éduquez-nous les gars.
Oui, il fallait que les gens comprennent.
En 2010, si tu veux, personne ne comprenait pourquoi tu payais 10 euros et tu avais toute la musique du monde. Tu vois, ça n'existait pas vraiment. Le fait de s'associer à un grand opérateur comme ça qui vendait des abonnements, ça simplifie vachement le truc. C'est-à-dire que tu as un abonnement à ton téléphone, dedans il y a la musique. fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir ton abonnement, ta musique, des trucs comme ça.
Et du coup, en fait, quand t'es plus abonné avec ton téléphone, bon, bah, t'as plus de musique.
Ouais, et puis voilà, on parle quand même d'une époque où, tu vois, même Netflix, il ne vendait pas un catalogue illimité par abonnement, des choses comme ça. Donc, il a fallu s'adosser à des grands opérateurs qui avaient déjà la capacité de vendre des abonnements mensuels que les gens payent pour, quelque part, convaincre les gens que c'était une façon légitime de consommer de la musique en s'abonnant. Alors qu'avant, bah, tu t'achetais des CD et puis... tu les avais à vie, maintenant il faut...
Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette défiance au tout début du streaming de se dire, attends, ça veut dire que l'album, tu l'as pas, quoi.
Mais ouais,
si tu te désabonnes, tu l'as plus.
Tu l'as plus, tu perds ta musique.
Il y avait ce côté...
Mais ça reste encore, parfois, des gens s'interrogent. Autant dans la musique, c'est un peu moins inquiétant, parce qu'on a l'impression que c'est... Ah, quoi que tu me diras, il y a des albums qui disparaissent régulièrement.
Bah, tout le temps. Moi je sais que je suis un utilisateur de Spotify, la fonctionnalité qui dit masquer les titres non disponibles, je l'ai décoché parce que je veux voir à chaque fois que j'ai une playlist justement les titres que j'ai plus en me disant oh, putain, c'est encore parti.
C'est un truc auquel vous prêtez une oreille, ça, une attention particulière.
Ouais, mais on n'a pas beaucoup de prise là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait la disponibilité sur les plateformes de streaming, c'est les maisons
de disques, les catalogues,
c'est les catalogues, il y a des histoires de rachat de catalogues. Mais alors il y a des histoires aussi de beaucoup, en fait ça a été un peu le Far West à un moment donné le streaming, c'est qu'il y a il y a des contenus qui sont allés sur les plateformes de streaming sans les accords de tous les ayants droit.
Donc c'est
et
parti,
ensuite, il y a eu un
revenu,
peu... voilà.
Mais alors, est-ce que c'est à des personnes comme vous que je peux m'adresser quand je cherche à savoir qui m'a dégagé un titre que j'aimais bien et me l'a remplacé soit par une version live chelou que j'ai jamais demandé, soit par une version karaoké éclatée que j'ai encore moins demandé.
Ça remplace ?
Moi, je te jure, il y a des morceaux, j'étais là, je fais... Ça, c'est pas Bobby Caldwell. Le Do For Love, là, c'est pas Bobby Caldwell, ça. C'est pas Tupac non plus. Alors, je sais pas qui c'est. Et c'est des trucs indonésiens, dans des compiles de karaoké, tu vois, où t'as le son qui ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça.
Moi, je pense que tu devrais changer de service de streaming. Parce que nous, on fait pas ça.
Okay.
On ferait jamais une chose pareille.
Non, jamais. Non, mais je voulais savoir justement si, de temps en temps, est-ce que vous faites un petit peu d'AB testing comme ça, genre, vous avez une fonctionnalité, vous dites, bon, on va la pousser sur un pool d'utilisateurs, on voit si ça marche en prod, tu vois, on voit comment ça réagit, et puis on ajuste, généralise.
L'AB testing, oui, on en fait, pas sur ce type
de sujet. Pour expliquer juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne voulaient pas l'AB testing.
Pardon. Bah, c'est du testing, en fait, tu le fais.
Tu prends deux options, tu les mets en parallèle, tu les proposes à des gens, et tu vois quelles sont les réponses pour savoir quelle est la meilleure option.
Voilà. C'est ce qu'on fait énormément, enfin, moi, en plus, en particulier au point de vue d'algorithme, on pourra en parler encore plus en détail, mais on fait évoluer nos algorithmes tout le temps, de manière permanente. Et la manière de mesurer ça, on pourrait se réunir autour d'une table et dire, moi, je trouve que l'algorithme là, il est bien ou là, il est pas bien. Et en fait, la façon tranchée, c'est finalement comment les gens réagissent en proposant à des sous-populations des variations d'algorithmes et voir si ça change leur manière de consommer la musique.
Mais c'est des algorithmes, tu vois, on va pas remplacer une chanson par une autre.
Non, est-ce qu'il va se rendre compte ? Non, mais par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec j'ai une idée. Bon, dès qu'un morceau dégage, on essaie de trouver un truc qui ressemble vachement, si possible avec le même titre, et puis on le glisse et on voit si ça dégage de la playlist ou si ça reste.
En vrai, je comprends l'idée derrière. Ouais, je comprends pourquoi on fait ça.
L'idée en soi est pas déconnante. Il y a des gens peut-être qui s'en rendront même pas compte, tu vois, parce qu'effectivement, on peut avoir des titres qui sont des reprises et des covers. Il y en a 12 000 variantes et tu te dis, bon, parce que je pense que dans les 90 millions de morceaux, évidemment, il faut bien que les gens comprennent qu'on parle pas de morceaux uniques, en fait, parce qu'il peut y avoir 1700 variations du même titre, des remasters, des machins, des trucs. Et tu te dis, bon, le gars, il avait mis dans sa playlist l'original, on va lui coller le remaster de 2012, il va pas voir la diff, tu vois. Après, quand ils essaient de me mettre des versions karaoké indonésiennes, là, moi, je suis un petit peu plus
sceptique. Sur le remaster, c'est compliqué parce qu'en fait, on a des outils de fingerprint audio, tu vois, qui essaient de rapprocher des œuvres pour dire, OK, c'est les mêmes enregistrements.
Ouais.
Il y a certains remasters où le fingerprint va dire, OK, ça, c'est vraiment de...
Donc, quand tu parles de fingerprint, donc, en fait, c'est une empreinte, c'est-à-dire que c'est digital, pour reconnaître le morceau, tout simplement.
Exactement. Donc, c'est une signature qui va te permettre, justement, s'il y a plein d'exemplaires de cette même morceau qui sont livrés chez Deezer, nous, ça va nous permettre de dire, OK, tout ça, c'est le même morceau, globalement. Après, t'as des variations des morceaux qui sont plus ou moins fines. Il y a des remasters où, franchement, c'est la même chose. Mm-hmm. Il y a parfois des rééditions d'albums où tu te demandes un peu c'est quoi le remaster en question. Et puis, il y en a d'autres où vraiment, c'est une œuvre différente.
Ouais.
Donc, en fait, tout dépend si cet algo de fingerprint qui est en dessous, il rattache les deux œuvres. Donc, si on te take down une chanson, mais que l'algo de fingerprint dit « Ouais, mais il y a celle-là, c'est quasi la même », en fait, ça va passer. Mmh. Mais ça va pas aller jusqu'à prendre une version indonésienne en karaoké, normalement. Ouais, ou alors, ouais. Y a
un ouais, truc ou alors, moi, je faisais partie d'un pool de test. Et
ouais, t'étais dans le groupe B.
Ouais.
est-ce que, avant, enfin, vraiment de rentrer dans le dur, on peut dire que, globalement, les questions qu'on se pose, une partie des réponses, c'est valable pour l'ensemble du marché ou pas? C'est-à-dire que ce qu'on appelle les DSP dans le milieu, c'est-à-dire les plateformes, est-ce que globalement, il y a à peu près les mêmes défis partout, à peu près les mêmes fonctionnements partout, etc.?
Oui.
Ouais, moi je dirais qu'il y a les mêmes défis, il n'y a pas forcément les mêmes réponses.
Ouais.
C'est là aussi où on se différencie, on a une position et un avis qui peut être différent, mais les problématiques sont vraiment générales. L'accès au catalogue, la personnalisation, les biais qui peuvent arriver ou pas dans les algorithmes sont vraiment des questions générales. Et voilà, et nous, on a une autre manière aussi d'y répondre.
Ok. Est-ce que, justement... désolé, hein,
est-ce qu'on rentre dans le dur ou pas, là?
Allez, vas-y.
Alors, on arrive dans cette partie ou pas?
Active le dur et tu veux ouvrir...
Eh ben, parfait. Non, parce qu'on a parlé du fait de vos métiers, en quoi consiste Deezer, etc., une vision un peu globale. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la question de la recommandation, de la recherche, etc., de comment ça fonctionne, tout simplement. Est-ce que toi, justement, c'est lié à ça, ta question? C'était
ouais, mais on pourra l'adapter plus tard, en fait, parce que c'est plus sur la distinction entre les différentes populations par le biais de la façon dont ils consomment la musique. Est-ce que vous avez des modèles où vous dites, ah, ça, c'est plutôt des Brésiliens, ça, c'est plutôt des Allemands, ça, c'est intéressant. Plutôt des Français.
Tu sais quoi, parce que c'est une question intéressante, effectivement. Peut-être commençons par diviser le sujet, parce que tu disais un truc tout à l'heure qui me semble pertinent, Thomas, à savoir qu'il faut déjà penser, il y a la recommandation d'un côté et la recherche en elle-même. Ouais.
Alors j'ai une question pour la recherche.
Bon, et ben commençons avec la recherche.
Mais quelle recherche? Celle de Manu ou la mienne?
Non, la recherche catalogue. Ouais, moi je suis un adepte du MP3 depuis 1831 à peu près. Je suis complètement d'accord avec toi Manu pour dire que c'est pas forcément le meilleur codec dispo, mais c'est le plus répandu.
C'est pas grave.
On fait avec. Moi, un des soucis pour gérer ma bibliothèque perso musicale, c'était les tags, le tagging de morceaux. Mmh. Parce que c'est l'enfer et que je déteste avoir des no-name untitled ou untitled 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un album, ça m'exaspère, donc je passe mon temps, en fait, à essayer de taguer correctement mes morceaux. Je sais que sur le format MP3 standard, des tags, on en a une tétrachier déjà de base. J'imagine que pour vous, ça doit être, il doit y avoir une infinité de tags disponibles par morceau. Est-ce qu'il y a une sélection de tags qui sont obligatoires à renseigner? Est-ce que ça affiche des erreurs s'il y a des trucs qui manquent dans le catalogue? Comment est-ce que ça c'est traité?
Si je comprends bien, la question, peut-être qu'elle se rapproche du fingerprint. Enfin, c'est qu'est-ce qui permet d'identifier des titres en fait sur une plateforme? Est-ce qu'on met des critères justement, ces fameux tags?
En fait, le contenu qui est chez nous, il est livré par
les maisons de disques.
Maisons de disques, des providers. Et la plupart du temps, ces providers, ils agrègent du contenu qui vient des labels. Mmh. Donc, tu as une chaîne d'intermédiaires qui finit par nous livrer des données qui contiennent le signal audio, tu vois, le fichier audio, et tout un tas de métadonnées. Et ces métadonnées, elles suivent un format qui s'appelle DIDEX, qui est une horreur absolue, enfin, une norme, si tu veux aller voir, c'est l'angoisse. Mais c'est pas une norme qui est fixe et qu'il n'y a pas de taxonomie des tags et des genres musicaux qui est imposée au monde de la musique. C'est-à-dire que n'importe qui sur cette planète peut inventer aujourd'hui un genre musical, enregistrer son morceau et dire « Je viens d'inventer le... »
L'ama piano.
L'ama piano.
Je viens d'inventer le
DLT Core, tu vois.
J'aime bien. Envoyez-nous des morceaux de DLT Core.
Exactement. Donc mon morceau, c'est vraiment du DLT Core. Et le livrer à toutes les plateformes de streaming avec écrit DLT Core. Okay. Et nous, c'est ça l'entrée chez nous.
Ouais.
Donc si tu veux, c'est même pas la jungle, tu vois. Il y a aucune limite.
Ouais.
Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des emojis, enfin c'est n'importe quoi.
Oui, c'est ça, parce que j'allais venir après sur le jeu de caractères à utiliser, les accents, etc.
Ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est l'entrée dans nos tuyaux. Nous on reçoit l'album, on reçoit la musique et puis il y a écrit DLT Core. Et là, on doit se démerder avec ça.
Et sachant que je précise, mais il y a aussi la capacité de tout à chacun en passant
par un
distributeur numérique type TuneCore, des choses comme ça. Où en fait, on peut mettre très facilement sa musique en ligne sur une plateforme.
Bien sûr.
Ça complexifie encore, j'imagine.
Pour finir, ça dans toutes les langues du monde. Parce que,
évidemment.
Sinon, c'est pas rigolo, dans toutes les langues, tous les alphabets du monde, avec tous les vocables possibles. Donc, on se retrouve avec la planète entière qui peut livrer du contenu, qui décrit sa musique avec les termes qu'ils veulent, et nous, on doit organiser ça d'une façon unique chez Deezer. Donc, bah, c'est dur. Ouais. Voilà.
Mais du coup, il y a, enfin, j'imagine que vous avez un milliard de routines pour gérer ce genre de truc. Mais quelle est la part d'intervention humaine sur ce truc-là? Est-ce que du coup, vous avez des process qui tournent et puis qui vous remontent les trucs ou vraiment le truc qui dit là, j'ai pas su moi-même comment le mettre.
Si on prend un exemple, demain, moi, justement, je passe par un distributeur, ma musique arrive sur Deezer. Est-ce que c'est informatisé, c'est-à-dire qu'elle va être classée à un endroit? Est-ce qu'il va y avoir une intervention humaine comme le demande Daz? Comment ça apparaît dans votre catalogue et comment c'est classé, entre guillemets, dans vos données, etc.?
Bah, ça peut être les deux, en fait. Il y a une partie de catégorisation automatique, c'est-à-dire que nous, on a typiquement des petits programmes qu'on a entraînés qui vont analyser ce que tu nous envoies, qui vont d'abord détecter si c'est de la musique ou si c'est du speech,
okay.
par exemple, parce que d'accord. ça, c'est assez important. On va peut-être essayer de détecter si tu chantes ou pas. Si tu chantes, dans quelle langue tu chantes?
Ah, carrément,
tout ce genre de petits programmes. Okay. Et ensuite, d'essayer de rattacher ça peut-être à un genre musical ou à détecter les instruments qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut attacher un mood à la track?
C'est-à-dire que c'est plus que l'analyse des métadonnées, c'est vraiment l'analyse du signal en lui-même.
Tout à fait. Mais ça, il n'y a qu'une partie de l'information que tu as à partir du signal.
Ouais.
Après, il y a l'analyse aussi des textes qui sont avec. Donc, si tu as envoyé le terme DLT Core, c'est un peu compliqué de rattacher ça à un genre musical. Mais si tu as envoyé hip-hop,
bah avec nous, un tiret ou sans tiret,
avec un tiret, bah nous on peut rattacher ça quand même à quelque chose qui existe dans notre catalogue.
Ouais.
Donc voilà, on peut traiter l'audio, on peut traiter les métadonnées, et ensuite il y a aussi les humains derrière. Il y a plein d'équipes éditoriales qui reçoivent ces trucs-là, qui les écoutent, et qui eux peuvent aussi choisir de les mettre dans telle ou telle catégorie.
Et elles reçoivent ce qui est problématique, entre guillemets, ce que la version informatisée n'aura pas réussi à
non,
gérer.
Non.
Il y a des gens, c'est le métier.
Bien sûr.
Ils écoutent à longueur de journée, ils disent ça, je le classe là, ça, je le classe
c'est-à-dire
là.
C'est-à-dire que moi, je peux dire, c'est du DLT Core, et quelqu'un, en fait, chez Deezer va dire, alors ça, non, c'est de la valse.
Bah, disons que si tu veux, sur le site Deezer, si tu vas dans la section Explore, il n'y a pas de section DLT Core.
D'accord.
Mais un humain
peut être attaché à...
Exactement. Par contre, il y a une session rap, et un humain peut très bien décider de prendre ton album et de le mettre dans la section rap.
Okay.
Et c'est une action humaine, et ton album sera dans cette section s'il y a un humain qui a décidé de le faire.
Et du coup, si parce que tu parlais par exemple des emojis qui étaient maintenant utilisés, on a des artistes avec des dollars ou
on les déteste.
Ah oui, ouais. Alors oui,
surtout le dollar qui est en
alors,
plus.
Il y a notamment du coup des algorithmes et des gens dans les équipes de recherche qui sur ce type de problématique sans accord. Et je me souviens même de oui, trop bien. Maintenant, on a réussi à prendre en main les emojis. C'est bon, ça a été un des succès. Est-ce que c'est une vraie complexité?
Ouais, donc, toujours dans le cadre de la recherche, c'est-à-dire faire en sorte que la personne qui va taper, elle tombe exactement. Et quand c'est des symboles compliqués,
effectivement, on traite plusieurs langues, donc il faut qu'on soit capable de les gérer. Donc tout ça, c'est vraiment des complexités qui sont à prendre en compte. Les artistes aussi, qui du coup, on en parle, les artistes qui ont le même nom. Donc ça aussi, c'est très compliqué. Il faut arriver à faire surfacer les bons, ceux auxquels les utilisateurs s'attendent. Donc oui, il y a une vraie question là-dessus. Et comme on le disait, on est vraiment tributaire à la base des données qu'on nous livre. Et après, on a un énorme travail de nettoyage, de mise en forme, etc. pour qu'on puisse derrière faire tourner les bons algorithmes.
Une fois que c'est mis en forme, il faut effectivement que la personne puisse tomber dessus en faisant sa recherche. Ça va être quoi quels sont les facteurs principaux, enfin les critères principaux que vous allez travailler, vous, pour faire en sorte que la personne, elle a un morceau en tête. Il faut qu'elle tombe dessus. Qu'est-ce que vous prenez en compte? C'est quoi votre défi?
Alors, l'un des défis majeurs, c'est de s'assurer que, en fait, l'utilisateur a bien tapé ce qu'il a envie de taper. C'est déjà la base, ouais. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est déjà un des travaux, d'y arriver à avoir des algorithmes de correction orthographique, de suggestion orthographique, de suggestion aussi de propositions, notamment entre des artistes qui se ressemblent ou qui ont des noms qui se ressemblent, d'avoir cette intuition-là pour raccourcir le temps de recherche et du coup faire des propositions. Ensuite, on a une mise en page, et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui tourne dans l'app, qui fait du coup toutes ces solutions-là, mais c'est mis en forme par du design, par du produit, pour arriver à mettre en œuvre les résultats et les suggestions, et notamment, il y a plusieurs suggestions possibles, ou plusieurs résultats possibles pour que l'utilisateur puisse arriver à naviguer là-dedans.
Moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est un truc qui reviendra certainement plusieurs fois dans notre discussion, c'est de se dire que ça offre aussi un certain pouvoir, à la fois à l'algorithme et aux humains qui travaillent derrière, de dire, nous, on va hiérarchiser l'information, en fait, d'une certaine manière, et on va considérer que cette réponse est plus pertinente qu'une autre. Et parfois, ça peut peut-être aussi causer des dommages. Je sais pas, tu parlais d'artistes qui ont le même nom. Eh ben, peut-être que l'un et l'autre sont tout à fait légitimes avec déjà une audience, etc. Comment on trie? Est-ce qu'on va considérer que celui les plus écoutés, par exemple, bah, alors à ce moment-là, on va le mettre plus en avant?
Là, si tu t'appelles John Legend avec un E à la fin, bon, bah, t'as bien choisi le nom quand même.
Mais c'est un très bon exemple. Enfin, effectivement, c'est pas une bonne idée de commencer ta carrière aujourd'hui en t'appelant Rihanna.
Oui.
C'est une super ouais. mauvaise idée. En fait, ce que tu dis est tout à fait vrai et ça pose des vraies questions parce qu'en fait, tu peux être légitime et t'appeler Rihanna. Mais en vrai.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, l'algorithme, si quelqu'un tape Rihanna, la probabilité qu'il cherche ton morceau à toi par rapport à Rihanna.
Mais ça peut être du squatting aussi, ça peut être une bonne idée.
Ça peut être aussi une stratégie, et ça l'est carrément.
Ouais.
Tu veux dire que quelqu'un sciemment prend le nom pour essayer d'apparaître ensuite dans les recherches.
Moi, demain, je suis un artiste. Et par exemple, je me place sur le créneau Rihanna. Mais je peux pas m'appeler Rihanna. Je vais voir des mecs comme Thomas et Manu, je vais leur dire, montrez-moi tous les gens qui tapent mal Rihanna pour voir le top score.
Tout le monde tape mal Rihanna.
Le
deuxième N. Personne ne sait comment ça s'écrit, Rihanna.
Et en fait, tu prends le top des misspells et puis tu dis, tiens, je vais m'appeler comme ça.
Et est-ce que justement, c'est intéressant ce que tu dis.
C'est un peu vicieux.
Si tu l'écris mal, est-ce que Deezer va se dire, en fait,
je le réoriente
vers la vraie Rihanna ou justement sur celui qui a changé un peu l'orthographe du nom et...
Alors, c'est ça qui est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est vraiment important sur le pouvoir qu'on a et ce qu'on offre aux utilisateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, quand on considère que c'est Rihanna, qu'on sent que c'est Rihanna, on va proposer implicitement Rihanna, mais par contre, dans l'interface, on dit, est-ce que c'est vraiment Rihanna que vous cherchez ou est-ce qu'on laisse la proposition à l'utilisateur d'insister sur, okay. Non, c'est vraiment comme ça que j'ai, que je veux, enfin, c'est vraiment ça que je veux chercher. Donc, on bloque pas l'utilisateur, on facilite plutôt et on oriente plutôt l'utilisateur quand on estime que c'est ça, mais toujours en donnant à l'utilisateur le choix, de pouvoir accéder à vraiment ce qu'il a voulu taper exactement.
Mais alors, une fois que l'utilisateur a choisi, par exemple, il a tapé Rihanna avec un H à la fin, vous lui dites, est-ce que t'es sûr que c'est ça? Parce qu'il y a effectivement une artiste qui s'appelle comme ça, et que lui dit, oui, c'est bien la petite artiste que je cherche. Est-ce que du coup, ce truc-là est historisé pour lui, et quand il le tapera à l'avenir, on lui proposera d'abord l'artiste moins connu? Est-ce que, en fait, l'algorithme s'adapte réellement à l'utilisateur? Ou est-ce que en fait, on continuera à lui proposer quand il le tapera, on considérera toujours que c'est la mauvaise façon de le taper, on lui dira toujours choisis. Tu vois, est-ce que vraiment il y a une adaptation qui est faite par rapport au choix de l'utilisateur derrière, qui peut influer sur la façon dont l'algorithme lui reproposera des trucs à l'avenir?
Alors il y a beaucoup de questions là-dessus. Enfin, du coup, c'est des questions et ce que je peux vous dire, c'est rien n'est tranché vraiment concrètement. Est-ce que je te dis maintenant, il y aura peut-être des changements là-dessus.
Pour l'instant, ça évolue presque chaque jour.
Ça évolue, ouais. Mais cette question-là de la personnalisation dans le moteur de recherche, elle est critique. En tout cas, elle est vraiment complexe et autant dans la recommandation où on est vraiment complètement personnalisation là-dessus sur le moteur de recherche. Effectivement, il faut qu'il y ait une personnalisation d'une certaine manière pour justement qu'on arrive à faciliter l'accès à ce que l'utilisateur a envie, mais pas une complète personnalisation. Ouais. Ça aurait pas de sens. Donc, on est vraiment dans un équilibre un peu plus.
Oui, il faut rester neutre, en fait.
Il faut rester neutre, ouais. Effectivement.
Ouais, tu peux quand même utiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire que si tu comptes le nombre de fois que les gens ont mal tapé Rihanna de cette façon et qu'ils ont quand même cliqué sur la Rihanna, ça te donne une idée de, est-ce que c'était du misspelling versus machin. Donc, collectivement et dans les usages, tu peux finir par apprendre, en fait, s'il s'agit d'une faute d'orthographe ou si c'est un nouvel artiste qui est légitime ou pas. Mais ça se construit aussi dans la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, les résultats peuvent varier d'un jour à l'autre en fonction de comment les gens vont se comporter et comment les algorithmes vont prendre ça en compte.
Et est-ce que vous, parce que là, donc, on parle de l'incidence que vous pouvez avoir sur la recherche faite par les utilisateurs. Est-ce que parfois des critères aussi peuvent être pris en compte? Typiquement, est-ce que si je fais une recherche depuis le Brésil et depuis la France, je vais avoir exactement les mêmes résultats? Est-ce qu'il y a des changements en fonction des tranches d'âge, par exemple? Est-ce qu'il y a des critères qui sont
pris en compte? Déjà, comment vous avez les tranches d'âge?
On les a pas. Pas trop.
On les a pas.
On fait pas de.
Certains
peuvent. Fait pas de profilage?
Non.
Pour la recherche des algos,
Non. Les utilisateurs peuvent renseigner leur âge à l'inscription.
C'est ça,
d'accord.
C'est une information en termes de recommandation qu'on utilise très, 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 très peu.
Okay.
Et quand on n'a absolument aucune information, et très rapidement, dès qu'on a un minimum d'informations simulateurs, ça ne sert plus à rien. C'est même dépassé parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de valeur à avoir la connaissance de l'utilisateur qu'un âge qui fait pas de la bonne recommandation.
Donc, c'est-à-dire que tous les parents qui bousillent leur algorithme, qui pensent bousiller leur algorithme, s'ils écoutent trop Libéré, Délivré ou ce genre de trucs pour leurs gosses, ils peuvent se dire ça va en fait, ça va pas me fumer mes recos.
Ah bah si tu écoutes que ça,
peu,
si.
Parce que mais si, c'est pas ton âge, ça sera l'historique, mais ça sera pas l'âge, on va pas aller.
Ouais,
va pas aller.
Le problème, c'est qu'il y a plein d'adultes qui adorent écouter cette chanson.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Et
c'est
eux, ils nous.
Et la géographie, par exemple.
La géographie, par contre, a un impact, notamment parce que l'une des aussi des fiertés de Deezer, c'est vraiment de mettre en avant le contenu local. Et du coup, la géographie donne des informations collectives sur l'usage un peu local. Et effectivement, on va réussir à faire plus resurfacer du contenu qui a une popularité locale parce qu'on considère que c'est ce que les utilisateurs locaux ont plus de chances de vouloir entendre. Et donc, ça fait un... Voilà, on favorise plutôt, on va aller réordonner souvent des contenus pour aller, quand on ne sait pas trop quoi faire... mettre la popularité du pays dans les algorithmes pour pouvoir ordonner les résultats.
Et je rajouterais chose qui est pas forcément claire de base, mais en fait les catalogues peuvent être différents par pays.
Ouais. Oui, en fonction des deals qui ont été faits.
Exactement. Il y a des droits différents.
Des droits différents. Ouais. Pendant très longtemps, l'Allemagne, par exemple, ça a été compliqué d'avoir les mêmes catalogues qu'ailleurs. Il y a parfois des albums qui appartiennent pas au même label. En fonction des territoires, tu vois, Warner peut distribuer un album en Europe, alors qu'il appartient à Universal aux États-Unis. Enfin, il y a plein de cas de figure qui peuvent apparaître, qui font qu'en fait, tu gères pas non plus exactement le même catalogue dans chaque pays.
Et comment vous faites pour que, bah, pour l'utilisateur, ça soit transparent, ce genre de... Parce que là, on est vraiment dans les embrouilles un peu de droits et d'utilisation des catalogues. Enfin, l'utilisateur, lui, ne sait pas. Puisque, je crois pas qu'il y ait si le label apparaît peut-être sur l'affichage détaillé du morceau,
crédits,
je veux dire,
ouais.
Dans une playlist, tu cliques sur un morceau, tu sais pas si c'est Warner, si c'est Sony, si c'est Universal. Du coup, est-ce que...
De toute façon, il y a l'accès ou il y a pas l'accès, j'ai envie de dire, non?
Oui, c'est du oui-non, en fait.
Ouais, j'imagine.
Ouais. Oui, c'est juste que ça, dans les résultats de l'algorithme ou de la recherche, t'es obligé de gérer le catalogue différemment par pays. Donc tu peux pas donner les mêmes résultats exactement.
Mais si moi je suis utilisateur de Deezer français, et que je vais aux États-Unis, est-ce que du coup je soumets mon utilisation de mon application qui est sur mon smartphone au Deezer américain, ou est-ce qu'on considérera toujours que je suis un Français?
Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu as téléchargé localement sur ton téléphone tes morceaux.
Et dans ce cas-là,
tu fais ce que tu veux. Mais si tu te connectes au réseau aux États-Unis, il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que tu es considéré comme un Américain. Moi, ça me l'avait fait en allant à Berlin. Il y avait un titre que je pouvais plus écouter, et quand je suis revenu, c'était nouveau.
Scandaleux.
C'est l'Allemagne.
Pour étendre un petit peu la discussion qu'on est en train d'avoir, on parlait de critères comme la géographie, éventuellement l'âge, etc. Est-ce que ça signifie que pour chaque utilisateur Deezer, il y a une forme de profil qui est créé avec différentes informations sur cette personne, et donc on va complètement personnaliser individuellement ce qui se passe?
Attention, ça c'est touchy.
Alors, non, c'est pas touchy, parce d'accord. qu'on est très sur un là-dessus. Je veux vraiment distinguer la différence entre le moteur de recherche
et la recommandation. On est encore sur la recherche pour
sur
le
la
moment.
Recherche, on est, alors, sur la recherche, l'objectif vraiment de la recherche, c'est vraiment de donner accès au catalogue, à l'entièreté du catalogue. Et les mécanismes qui vont réordonner un petit peu tout ça sont vraiment pour faciliter l'accès en poussant les contenus les plus probables. Mais vraiment, le moteur de recherche est vraiment une porte d'entrée à la totalité du catalogue.
Et donc, c'est quasi indifférencié différents profils utilisateurs.
Tout à fait. C'est pas la même chose en recommandation, mais c'est complètement assumé et c'est le but. Et on pourra en parler plus en détail tout à l'heure. Ouais.
Est-ce que l'application Deezer utilise, quand elle est installée sur un smartphone, des données externes à l'application? Non, mais parce que, par exemple, Facebook, on sait qu'à un moment donné, ou même tout simplement Uber, par exemple, consulte ton niveau de batterie. Et en fonction du niveau de batterie que tu as, il est capable de te proposer un prix qui est parfois doublé s'il voit que t'as plus beaucoup de batterie. Tu vois, c'est ce genre de petit... C'est-à-dire que l'application qui est installée sur le smartphone utilise le réseau sur lequel t'es connecté, ton niveau de batterie, les autres applications qui sont installées pour essayer de te profiler, te mettre dans une catégorie d'utilisateurs, etc. Est-ce que vous faites ça ou vous en tenez vraiment strictement à la pure consommation qui est faite sur votre application?
On s'en tient à la consommation pour la recommandation, pour le moteur de recherche. On a quelque chose désormais en Europe qui s'appelle la RGPD,
oui,
où
c'est
on a
vrai.
Toutes les conditions et toutes les données. On doit se justifier, notamment dans toutes les notices. Alors, c'est les petites lignes, mais en tout cas...
Il faut le consentement.
Il faut qu'on explique la finalité de l'usage. Et du coup, en termes de profilage, non. En termes de recommandation, on va vraiment utiliser les données générées par l'utilisateur de stream, de favoris, etc. Et c'est bien suffisant déjà. On a déjà assez de travail avec ça. Et voilà, donc c'est vraiment
parce que enfin c'est juste qu'effectivement les fournisseurs d'applications comme ça ont tendance à essayer d'agréger un maximum d'informations.
Mais pour, alors c'est à la fois ça faisait partie, je parlais là du la différenciation, mais à la fois on n'en a pas l'intérêt ou l'usage parce que parce qu'on a déjà beaucoup de travail et on arrive déjà à faire de la bonne recommandation et à personnaliser le contenu rien qu'avec ça. Mais aussi, et c'est encore une fois une posture qu'on défend aussi au sein des algorithmes, c'est aussi une posture éthique. Je pense qu'on va en parler beaucoup, on en commence à ébaucher les algorithmes qui font peur, qui peuvent manipuler, qui peuvent contrôler. On a une nécessité éthique qui est importante et de transparence vis-à-vis de nos utilisateurs parce que ça effraie et que on n'est pas là pour pousser quoi que ce soit, manipuler quoi que ce soit. On est, en tout cas dans les services de recommandation ou des moteurs de recherche, au service de l'utilisateur. Ce qui compte, c'est que l'utilisateur, à la fin, il soit satisfait de son service, qu'il accepte de payer son abonnement parce qu'il se sent bien sur ce service, parce qu'il n'a pas l'impression d'être biaisé ou qu'on le manipule ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment...
C'est de la confiance.
C'est la confiance. C'est à la fois l'éthique et je dirais presque cyniquement un pari économique, mais c'est vraiment ce positionnement-là. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment extrêmement clair là-dessus et qu'on essaye d'expliquer. C'est pour ça qu'on vient ici aussi pour parler des algorithmes, la transparence. Enfin, ça fait partie aussi de notre manière de travailler et de fonctionner.
Et puis c'est dans notre intérêt, si tu veux. Le truc, c'est que si j'ai une application qui veut te vendre des lave-vaisselle, ça m'intéresse de savoir ce que t'as comme application installée sur ton téléphone ou des choses comme ça, et récupérer des bouts de ta vie privée pour savoir ce que je peux te recommander. Nous, on doit te recommander de la musique.
Et pour ça, de la musique.
On a besoin de savoir ce que t'écoutes comme musique. Et ça, en fait, tu nous le dis, tu vois, tu vas dans l'application et t'écoutes de la musique.
Non, mais par exemple, savoir quand...
C'est suffisant, en fait.
Savoir quand moi j'installe Deezer, que vous dites, tiens, il a installé Deezer, mais il a aussi Spotify ou Apple Music installé sur son smartphone, donc potentiellement, c'est quelqu'un qui s'adonne au streaming, ou alors au contraire il a une application d'écoute de musique en local, tu vois, ce genre de, même strictement sur le même champ d'application, c'est-à-dire vraiment de la musique pure, savoir que voilà, j'ai GarageBand installé ou ce genre de truc, et donc potentiellement je fais aussi de la musique moi-même.
Et j'irais même plus loin, c'est que on sait que la musique, comme tout objet culturel, elle est révélateur aussi. Il y a une approche sociologique de la consommation de musique,
de la
distinction, du goût, etc. Il y a plein de choses autour. D'ailleurs, peut-être des trucs sur lesquels vous vous penchez avec Deezer Research.
Bien sûr. Enfin, il y a des
et on pourrait peut-être grappiller à droite et à gauche des informations qui nous permettraient encore. Alors, j'ai bien compris que vous êtes déjà submergé par l'information en réalité, mais qu'on pourrait certainement encore affiner éléments extérieurs.
T'as raison, Salman. C'est peut-être que là, ça n'intéresse plus le champ couvert par Thomas. Par contre, pour toi, Manu, j'imagine qu'il y aurait un intérêt peut-être d'avoir plus que les informations strictement récupérables dans l'application en elle-même, mais justement pour profiler sociologiquement les utilisateurs dans le cadre de... Je parle pas vraiment dans l'objectif de se faire de l'argent, etc., mais ne serait-ce que pour fider des modèles et être capable de proposer à des chercheurs des données qui sont vraiment complètes, se dire, tiens, un utilisateur sur trois de Deezer a également Spotify sur sa bécane, ou ce genre de...
On fait ce genre d'études, en fait, mais quand on le fait, c'est toujours déconnecté du produit Deezer ou de l'application, et ça n'a pas d'impact sur la façon dont tu vas construire l'application. Tu vois, on va lancer des questionnaires, on va faire des entretiens avec des gens, où on va essayer de récupérer ce genre d'informations et de, effectivement, se poser ces questions-là. Mais c'est pas...
il n'y aura pas d'impact direct sur comment l'application
réagit. C'est pas la donnée qui va nourrir derrière l'application.
Et encore une fois, c'est clairement demander à l'utilisateur préciser le cadre d'une étude de recherche, que ces données...
c'est pas des trucs qui sont grappillés dans son dos.
Que ces données seront utilisées par des chercheurs et uniquement par des chercheurs anonymisés et que ce ne sera pas exploité pour des raisons commerciales, etc. etc. Donc il y a vraiment un cadre qui est à la fois éthique et légal sur lequel...
Peut-être avant de passer au volet plus recommandation, qui est aussi passionnant, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect un peu technique, etc. Manu, à quel moment Thomas, par exemple, à quel moment tu interagis avec Manu dans le cadre vraiment de la recherche spécifiquement? Et toi, Manu, qu'est-ce que tu peux apporter à la question de la recherche et globalement tes équipes, tu vois?
Alors, nous, on travaille beaucoup sur l'organisation du catalogue. Donc, on essaie d'extraire des informations sur le catalogue pour ensuite nourrir les algorithmes de recommandation. Donc typiquement, si on détecte que...
De recommandation, mais pour la recherche aussi
On a une partie de recherche sur les algorithmes de recommandation. Typiquement, on va essayer de, construire un dataset un peu hors sol, et on va essayer de simuler des comportements d'utilisateurs, et puis de tester, si je rajoute l'information de la météo, est-ce que ça améliore quelque chose. Voilà, ça c'est typiquement une question de recherche qu'on peut se poser.
Okay.
Non, la réponse est non.
Ah, ça alors.
Enfin, pas, c'est pas ouf, quoi. C'est pas, c'est okay. pas suffisant. Voilà, donc on va se poser des questions et puis on va monter des expériences un peu hors sol décorrélées de ça. Si on apprend quelque chose, bah, on invite tout de suite Thomas et puis on dit, regarde, on a trouvé un truc, c'est super, c'est la météo, il faut absolument mettre ça dans le modèle.
Je suis sûr que ça va faire son chemin, ça.
Mais par exemple, dans la... Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour hiérarchiser l'information qui apparaît suite à une recherche, etc. Est-ce que, par exemple, je sais pas si je vais une recherche par genre musical, parce qu'on peut aussi faire ça. Comment on s'assure que rock, ça veut dire la même chose pour tout le monde quand je recherche du rock? Comment je peux savoir quel type de rock spécifique il cherche? Et là, il y a aussi un aspect théorique à prendre en compte, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Il y a un double aspect du coup à devoir modéliser. Il y a qu'est-ce que rock signifie pour ton catalogue musical, et puis surtout qu'est-ce que rock signifie pour tes utilisateurs. Et ça, c'est pas une question qui est facile, parce qu'en fait. Les genres musicaux, c'est un peu comme des frontières, si tu veux. C'est-à-dire que c'est des labels qu'on applique sur du contenu. Si tu vas à la frontière franco-belge, tu vois, d'un côté c'est la Belgique, de l'autre côté c'est la France, mais en vrai, c'est quoi la différence entre
les... en réalité, tout ça.
Exactement.
Mais, et votre interaction à ce niveau-là, comment elle va se passer? C'est-à-dire que Manu va te dire, nous, je sais pas, il y a une recherche, on voit bien que rock, ça peut avoir effectivement différentes acceptations, ou en tout cas que ça peut être pour eux, etc., avec d'autres genres. Toi, comment tu l'appliques derrière? Comment on prend en compte? Comment on s'adapte à tout ça? C'est terrible, c'est un bordel terrible, la hiérarchisation de la musique, des branches, etc.
Tout à fait. Ouais. Alors, on a plusieurs manières de collaborer. On a surtout des temps qui sont un petit peu différents, parce que notamment la recherche est vraiment un temps long.
C'est vrai.
On
a du temps.
Il y a des thèses qui sont encadrées chez vous, donc c'est des projets de 3 ans. Tandis que nous, on a quand même des impératifs de production, d'être rapide, efficace, de sortir des choses face à nos concurrents. Il faut qu'on jongle avec cette temporalité. Mais rien que déjà la connaissance qui est apportée, elle fait son chemin, elle mature. Donc ça, c'est déjà des éléments.
Des moments de partage chez Deezer prévus, de je sais pas, de réunions, d'échanges, de machin.
Oui, alors déjà, premièrement, physiquement, on est vraiment, vraiment à côté.
Littéralement à côté.
À côté. Tout à fait. Et puis après, on a des réunions ensemble, des présentations de travaux. Tu organises régulièrement des séminaires de recherche avec des travaux internes, des travaux externes dans lesquels il y a vraiment ce partage-là. Dans les projets en commun qu'on fait, il y a ces partages de connaissances, puisque effectivement, il y a des travaux qu'on mène ensemble. Parfois, vous livrez aussi des algorithmes qui sont utilisés, exploités par d'autres équipes, ensuite très concrètement industrialisés pour sortir juste la partie prototypage ou recherche. Donc, c'est comme ça que toute cette connaissance, elle peut diffuser.
Typiquement, tu vois, sur la recherche, on a fait une étude il y a un an et demi, où on a extrait plein de logs, de traces de ce que les gens tapaient comme recherche.
Quand tu parles de logs, c'est-à-dire de leur historique, entre guillemets, là.
Ouais, des historiques assez anonymes, tu vois. On sait pas qui a fait quoi, à quel moment. On a juste besoin de ce que les gens ont tapé. Et en fait, après, tu regardes sur quoi ils ont cliqué. Et ça, donc tu construis comme ça une espèce d'expérience hors sol. Et en fait, notre but, c'était d'essayer de voir, OK, est-ce qu'il y avait des modes qui se dégagent dans la recherche, dans le fait de rechercher. En fait, on se rend compte qu'il y a deux façons d'utiliser le moteur de recherche. Il y a le mode, je sais ce que je veux écouter. Et ça, t'as un comportement très spécifique.
Tu tapes et cliques.
Tu essayes de respecter. En plus, j'imagine le bon nom de bien l'orthographe.
Voilà, tu tapes Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Paf, tu cliques sur la chanson. C'était ça que t'étais venu chercher. Il y a aucun.
Et si tu l'as pas, t'es déçu. Pour revenir à, si on veut biaiser des choses, organes, ce machin, c'est les utilisateurs qui tranchent, qui disent, mais non, c'est pas ce que je veux. Donc, on est tributaire de ça.
Et après, t'as l'attente. Du coup, t'as un deuxième mode d'utilisation qui dit, musique pour faire la cuisine, tu vois. Et là, il y a des gens qui tapent ça.
Il y a des gens qui tapent ça. C'est marrant, parce que moi, c'est pas du tout mon approche de la plateforme.
Mais si, parce que les playlists sont justement vachement thématisées.
Oui,
aussi.
Exactement. Les playlists en elles-mêmes, mais de là, le rechercher dans la barre de
recherche. En fait,
ça va trouver une playlist qui va avec.
C'est vraiment une approche de la musique.
Ouais, tu peux taper workout, tu peux taper musique pour courir, tu peux taper. Et en fait, il y a aussi une partie de l'usage qui est fait là-dessus.
Et c'est très corrélé aussi à ce qu'attendent les gens de la musique. Parce qu'on a souvent, c'est évident, pour une plateforme de streaming, les gens, ils veulent écouter un artiste, ils veulent écouter un titre qu'ils aiment bien. Donc, il y a une vraie notion culturelle, effectivement, de la musique, de découvrir par artiste, etc., etc. Il y a toute une partie des gens, ou en tout cas de mode, de fonctionnement des gens, à qui en fait ont envie d'écouter la musique pour s'associer à un mood précis, une habitude, quelque chose comme
ça. C'est un truc que aussi les plateformes mettent en avant, pour être honnête. C'est-à-dire, je sais pas,
musique pour étudier,
l'œuf ou la poule, je sais pas qui est à l'origine, mais que c'est un truc qui est entretenu par les plateformes.
Ça. Peut-être que les plateformes se sont adaptées.
On s'est adapté puisqu'on a entendu nos utilisateurs, on a fait des études, on a testé aussi, on a proposé ces contenus.
Vous créez pas des usages aussi parfois?
Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut voir que depuis très longtemps, tu peux créer tes playlists sur Deezer et sur Spotify. Il y a un truc qui est très, très intéressant à faire, c'est de regarder les titres de ces playlists. Et en fait, si tu veux, les plateformes se sont mis à créer des playlists contextuelles, c'est parce qu'il y en avait massivement dans les playlists
utilisateurs. Les gens le faisaient eux-mêmes.
Bien sûr.
Est-ce que par exemple, si demain j'arrive et je tape musique, publicité, Paco Rabanne, Invictus, vous avez ce genre de truc? Parce qu'il y a pas mal de recherches musicales qui sont faites par les gens qui écoutent la pub et qui se disent « Ah, j'aime bien la pub qui passe sur la... » Enfin, la musique qui passe sur la pub Renault, par exemple.
Plutôt que de le faire sur Google, le faire directement dans...
Bah ouais, en fait,
il y a des gens qui tapent ça et parfois ils trouvent. Ouais.
S'il y a le titre qui s'appelle « Musique, publicité, Invictus... »
Ou bien, plus probable, quelqu'un a créé une playlist dans laquelle il écrit... Le titre de la playlist, c'est Musique Paco Rabanne Invictus, et il a mis le titre en question dedans.
Et là, vous êtes capable de faire le.
Tu peux tester. Non, mais c'est-à-dire qu'indirectement, c'est référencé parce qu'il y a un autre utilisateur qui s'est dit attends, je vais le mettre ça.
C'est intéressant.
Mais par contre, on est d'accord que pour vous, ce serait impensable que. Parce que c'est une question que moi, je me posais. Il y a plein de questions que je me pose.
Et si on hiérarchisait un minimum?
Par exemple, qu'il y ait un champ qui soit dévolu aux utilisateurs pour qu'eux-mêmes puissent taguer les morceaux. Alors vous, ça sera un merdier pas possible, j'imagine, mais un genre de champ commentaire comme tu as, un champ commentaire sur les tags MP3, où justement, toi, tu peux mettre là ce que tu veux. Ce qui fait que du coup, ça peut être cross-référencé chez tout le monde, avec un élément...
Tu veux dire une part, en fait, de participation de la part des utilisateurs qui permettrait d'alimenter globalement comment on tag, etc.
En fait, tu dédies...
Tu t'ouvres un truc fou, là, j'imagine, mais je sais pas si ça existe, mais...
Bah ouais, mais en fait, tu vois, par exemple, plutôt que de... En fait, c'est une façon de faire la playlist dans l'autre sens, c'est-à-dire que, par exemple, nous, dans DLT, on fait des recommandations.
Ouais.
Plutôt que de faire une playlist recommandation DLT et de mettre tous les morceaux, bah en fait, sur le morceau, tu fais, bah ça, c'était dans DLT 36. DLT 36, DLT 37, DLT 38, et en fait, bah, toi, tu tapes juste DLT et paf, t'as tous les morceaux qui tombent.
C'est un truc que vous avez déjà envisagé, ça, ou qui ont déjà été réfléchis ou...
En fait, de donner plus de contrôle, peut-être, aux utilisateurs sur ce qu'ils écoutent. Puisque maintenant, on sait qu'avant, c'était... le streaming était un complément d'une bibliothèque musicale en dur qu'on avait chez nous. Moi, je suis encore comme ça parce que je suis vieux. Mais les plus jeunes, en fait, ils ont même plus de MP3 chez eux, tu vois. Donc, pour eux, c'est vraiment leur musique. C'est-à-dire, c'est la vôtre, en fait. Mais c'est eux qui l'utilisent au quotidien et du coup donner plus de contrôle aux gens, autre que juste faire des playlists.
C'est vachement intéressant, mais je pense qu'il y a que les gens comme toi et les experts qui ont besoin d'organiser leur catalogue de cette façon-là.
Ouais.
En fait, c'est un besoin qui est de niche. On va pas se mentir.
Et ça c'est le problème.
Et j'imagine. Enfin, moi j'aimerais bien. On est dans la même niche, mais il y a un coût de développement qui est terrible derrière. Ouais. Tu vois, donc il faut pouvoir engager. Et si tu changes le produit et que tu rajoutes des fonctionnalités comme ça, à chaque fois que tu rajoutes une fonctionnalité, tu complexifies ton produit.
Ouais, je suis d'accord.
Pas que pour l'utilisateur, hein, d'ailleurs, pour tous les devs qui doivent le faire, c'est un truc à maintenir sur la longueur. Voilà, il faut savoir. Qu'est-ce que tu peux mettre dans le produit? Qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs et combien ça coûte?
Du coup, j'imagine qu'il y a une bible de ce qu'est Deezer et ce que doit rester Deezer pour justement éviter que... Par exemple, il n'y a pas une sélection genre Deezer expérimentale ou...
Si.
Ah si,
si, il y a une section Labs dans Deezer.
D'accord.
Et ça n'empêche pas de tester des trucs.
J'ai pas suivi sur le côté expérimental Labs, etc. Pardon.
C'est-à-dire que là, ce qu'on dit, c'est que si tu rajoutes des fonctionnalités dans ton produit, tu transformes ton produit et du coup potentiellement ça peut avoir par effet de bord je sais pas moi,
ça va faire
ramer le moteur de recherche parce qu'en fait t'as rajouté un
et
truc
ça et ça peut aussi complexifier l'expérience pour la majorité des gens, donc c'est vraiment un équilibre dans le produit de trouver les fonctionnalités qui servent les utilisateurs, qui répondent aux besoins, mais pas aux besoins extrêmement précis de deux personnes.
Ouais.
Et ça, il y a donc un Deezer Labs où l'idée, ils réfléchissent à des idées, comment améliorer, c'est ça?
On teste quand même régulièrement des nouveaux trucs, ça apparaît dans le produit, on voit comment les gens réagissent, si ça réagit bien, potentiellement, ça peut continuer.
Par exemple, moi, j'adorerais, j'écoute un morceau de rap, Et l'application me propose l'original qui a été samplé, tu vois. C'est un truc...
dans de la reco, ouais.
J'aurais ça, moi, je serais fou, en fait. Parce que c'est ce que je fais déjà de base. Quand j'écoute un truc, je suis toujours sur Who Sampled,
ouais,
Google,
tu l'intègres directement
taper,
à 10h.
Et là, en fait, tu dis, tiens, bah, ce truc-là, puisque c'est logué dans, dans la fiche, Discog et tous ces trucs-là, on le sait, quel titre interpole tel morceau, machin, etc. Donc, en fait, tu peux
dire, récupérer. Quand on voit que, par exemple, je sais pas si vous le faites chez Deezer, j'imagine que oui, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'y est mis, qu'on trouve maintenant les lyrics,
les
textes. Les
bravo.
Désolé.
C'est pas complètement délirant de mettre, pourquoi pas, l'origine du sample aussi dans les informations.
Alors, c'est pas délirant, mais là, t'es dans une niche de niche. Les gens veulent écouter la track qui a été samplée. Enfin, moi, je suis assez d'accord, mais après, imagine-toi à quoi ça va ressembler. Alors, sur un site web, on peut voir à peu près, tu vois, tu vas cliquer, machin. Mais aujourd'hui, 95% de l'usage, c'est sur mobile.
C'est du mobile, ouais.
Imagine-toi, là, voilà, t'as déjà pas beaucoup d'espace sur un téléphone, faut que tu rajoutes le bouton qui dit « Trouver le titre du sample qui est dans cette track ». Donc, c'est-à-dire que déjà, nous, faut qu'on trouve la track en question.
Non, ça serait pas... Ouais, alors, ça c'est de l'UX, c'est de l'UI, mais en fait, le truc, ça serait...
Parce pas que... trop technique, là.
Oui, pardon, c'est de l'ergo. C'est de l'expérience utilisateur, c'est de l'ergonomie. Mais ne serait-ce que juste un truc tout bête, et que moi je trouve est un manque incroyable, le fait de pas avoir l'intégralité des crédits sur un morceau. Moi j'aime bien savoir qui est le bassiste, qui est le batteur.
Ça s'améliore avec le temps quand même.
Ça s'améliore, ouais. Mais c'est vrai que je suis assez
d'accord.
Mais
tu vois, c'est...
Il manque plein de trucs.
Ouais, en fait, ouais. Puisque on a maintenant... Cette musique-là, c'est celle qu'on écoute principalement. On n'achète plus de CD, en fait. Dans les CD, il y avait un petit cérémonial qui consistait à ouvrir le boîtier, prendre le petit livret et puis regarder en fait sur chaque morceau les crédits, les machins, etc.
J'ai même envie de dire d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que vous vivez dans un écosystème musical avec plein d'acteurs extrêmement différents et qu'il y a du respect à porter à tous les acteurs qui participent à œuvrer pour la musique entre guillemets, y compris un mec qui joue de la batterie sur un titre effectivement.
Et être capable par exemple
de le mentionner quoi.
Tu vois parce que le fait de une fois que tu fais ça, je sais que la puissance de ces applications fait que si en plus le mec qui a fait la batterie sur ce morceau-là, je tape son nom et du coup je vois dans tous les morceaux dans lesquels il a participé. Putain, mais là moi je suis refait.
Il va encore nous dire que c'est de la niche, Manu.
Là je suis plutôt d'accord avec toi que c'est une question de respect. Le problème principal qu'on a là-dessus, c'est la qualité des métadonnées input.
Ouais.
C'est-à-dire que les crédits, c'est super quand tu les as.
Garbage in, garbage out.
Ouais, voilà. En fait, ouais. C'est pas toujours facile d'avoir. En fait, si tu veux, même si tu vas les bases de données musicales en général. Et sur les noms d'artistes en particulier, c'est un peu un bordel. C'est-à-dire que peu de gens utilisent des identifiants qui sont
uniques.
Et tu vois, il y a des codes IPI, par exemple, ou ISNI, comme ça peut être utilisé dans les librairies pour identifier les auteurs, les choses comme ça. C'est très peu utilisé dans la musique.
Okay.
Ce qui veut dire que, en fait, typiquement, c'est assez fréquent que les paroliers y aient juste l'initiale du prénom et le nom de famille. Mais en fait, ça, c'est chiant. C'est-à-dire qu'il y a plein de graphies différentes pour les différentes personnes.
Bien sûr.
Mais ça, moi, pour avoir pas mal travaillé avec des bases de données de la SACEM ou des choses comme ça, tout le monde a ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'identifier les gens de façon unique, c'est compliqué. Mais par contre, je suis d'accord. Ce serait intéressant et important
Il faudrait mettre en avant créer des nomenclatures, en fait. Peut-être.
Après,
organisme le ferait, etc.
Je parlais tout à l'heure d'IDEX. C'est une grosse organisation qui regroupe beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale et ils essaient de se mettre d'accord sur des normes en ce moment. Et donc là, ils devraient bientôt pouvoir commencer à utiliser tous des codes ISNI pour décrire les artistes, pour distinguer les artistes. Mais voilà, ça va se faire dans les années qui viennent. Et pour l'instant, c'est pas du tout l'état des.
Parce que c'est. Enfin, après, moi, j'imagine pas que le rollout puisse se faire sur l'intégralité du catalogue. Mais par exemple, tu parlais des lyrics qui s'affichent. T'as soit des morceaux où il n'y a pas les lyrics du tout, soit les morceaux où tu as tous les lyrics, et puis tu as des morceaux où les lyrics sont synchronisés avec la musique. C'est-à-dire que de toute façon, même dans la mise en œuvre du truc, tous les morceaux sont pas équivalents, et puis c'est pas grave, en fait.
J'imagine que c'est vis-à-vis de la popularité aussi, que c'est...
Ouais, bien sûr, bah oui, c'est sûr.
Ouais, bah t'as des données qui sont plus ou moins faciles à avoir. C'est-à-dire que sur le contenu récent, les métadonnées, elles sont clean.
Ouais.
Ça, on est d'accord. Après, sur tout ce qui est
plus...
Tout
le back catalogue,
c'est l'enfer. Et puis il faut bien voir que le streaming est arrivé après, et que il y a... beaucoup d'héritages qui se sont faits où les maisons de disques elles avaient les crédits c'était sur des bouts de papier tu vois qui étaient
complètement compréhensible bien sûr.
Ce que je vous propose c'est on a pas mal parlé mine de rien juste de la recherche en tant que telle et pas encore de la recommandation. Je pensais pas qu'on passerait autant de temps en fait. Il y a plein de trucs à dire déjà rien qu'autour de la simple moteur de recherche.
Bah t'as le doigt dedans il y a déjà tout qui vient avec quoi.
La recommandation alors là j'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué.
Dans le fin, je sais pas d'ailleurs si tu es d'accord avec moi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un interventionnisme plus important. En tout cas, il y a une intervention de la plateforme directement et donc des choix plus forts à faire parce que vous avez une forme de responsabilité là.
Oui, on en a aussi sur le moteur de recherche, comme je disais, de transparence et d'accès à la totalité du catalogue. Mais effectivement, c'est différent. Enfin, c'est différent et complémentaire. Oui, parce que là, effectivement, on pourrait nous accuser d'influencer, de pousser du contenu. Donc, faut qu'on soit
d'orienter.
Donc, faut qu'on soit très serein vis-à-vis de la manière de faire, comment est-ce qu'on fait, etc., etc.
Comment vous définissez la recommandation et quel est le but pour vous?
Pour nous, c'est vraiment un service aux utilisateurs. C'est vraiment comme ça qu'on l'a défini et qu'on l'a construit pour justement aider l'utilisateur à naviguer dans le catalogue, alors qu'il n'a pas vraiment d'envie, d'idées précises. Et c'est en ça qu'on utilise la recommandation. En général, j'utilise une métaphore que nos vieux auditeurs pourront comprendre. C'est ce qui se passe dans un magasin de disques. En fait, quand on va dans un magasin de disques, on peut aller directement dans les rayons parce qu'on sait exactement ce qu'on cherche. Les rayons sont classés par jazz, par rock, etc. Donc, le catalogue est organisé. Puis, les utilisateurs, ils vont aller chercher le titre qu'ils connaissent parce qu'ils ont entendu leurs potes, ils ont entendu la radio, etc., etc. Donc, ça, c'est une première approche. Et puis, des fois, ils savent pas trop quoi faire et ils vont demander à un vendeur.
Ils veulent écouter de la musique.
Ils veulent écouter la musique, ils aiment la musique, ils ont envie, ils savent pas trop. Et donc, ils vont consulter un vendeur qui leur dit, moi, j'aime ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Le vendeur va faire ça. La recommandation, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est un assistant qui est présent, qui est pas omniprésent. C'est vraiment important, qui est vraiment là si l'utilisateur a envie, besoin. Et à ce moment-là, on est là pour l'aider, l'assister et le guider de cette manière-là.
Est-ce qu'il y a un élément qui rentre en compte qui est, je ne sais pas si ça vous aiderait dans votre modèle économique, donc peut-être que ce n'est pas le cas, mais je sais que ça peut exister sur d'autres applications, aussi de rendre un peu captif l'utilisateur. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit le plus longtemps possible sur notre plateforme et qu'il écoute le plus longtemps possible. Est-ce que c'est un élément qui est pris en compte aussi? C'est-à-dire qu'il a fini d'écouter ce qu'il voulait, nous tout de suite, on lui propose un flux continu, on enchaîne, etc., de façon à ce qu'il reste. Est-ce que ça peut être un truc qui est intéressant pour vous ou pas?
Mais c'est le cœur du business.
C'est plus de créer la valeur. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que les gens vont sur Deezer et pourquoi est-ce qu'ils vont sur Deezer plus que d'autres plateformes? Effectivement, il y a un accès au catalogue, il y a leur bibliothèque, etc. Mais il y a aussi de l'enrichissement. Se dire, OK, on est content d'arriver sur cette plateforme parce qu'il y a certaines choses que les concurrents n'ont pas. Et notamment, la recommandation est une forme, la manière de recommander la musique est aussi une forme différenciante par rapport à d'autres concurrents. Et donc oui, c'est un élément qui dit, moi je suis content d'être chez Deezer parce que la recommandation, elle me comprend, parce que je découvre des nouveaux titres avec ça, parce que je réécoute des anciens titres que j'aimais bien grâce à la recommandation. Donc oui, c'est un élément de valeur du produit qui fait qu'on fidélise nos utilisateurs par ce biais-là.
Oui, parce qu'en fait, initialement, c'est vrai qu'on choisissait l'application au tout début, en fonction de celle qui a le plus gros catalogue. Genre, eux, ils en ont 90 millions, eux, ils en ont que 50.
Genre, je vais aller sur 90. Partout.
Effectivement, maintenant, ça n'a plus d'intérêt, de toute façon. Donc, ce qui va vraiment faire qu'on reste sur la plateforme, c'est plutôt les algorithmes de reco.
Ouais, c'est l'accès. Parce que, comme je le disais, en fait, trop de catalogues, trop de choix, tu le choix. Et donc, ça serait presque contre-productif s'il n'y avait pas des outils et des éléments qui permettaient justement de naviguer, d'accéder et qu'on passe pas des heures juste à choisir son titre pour ça prend du temps.
C'est l'effet Netflix.
Netflix où on passe la soirée à choisir son film et finalement on l'a pas. C'est à ça que servent aussi les algorithmes de recommandation.
T'allais réagir tout à l'heure.
Ouais, j'allais réagir parce que t'as dit un truc intéressant qui est que le nerf de la guerre c'est de garder les gens le plus longtemps possible. En fait, pas tellement pour un service par abonnement comme Deezer.
Oui.
C'est pas parce que tu vas rester plus longtemps sur Deezer qu'on va maximiser, le temps de pub qu'on va pouvoir t'envoyer ou des trucs comme ça.
En tout cas, pour tous les utilisateurs gratuits, là, ça a un intérêt.
Mais ça représente une part assez marginale du business de Deezer.
Et j'ai envie de dire, pour vous directement, l'abonnement, non. Par contre, pour les ayants droit, c'est potentiellement des streams supplémentaires.
Oui. Mais
et là,
ça,
peut-être que vous avez intérêt à vous mettre bien avec eux aussi, j'en sais rien, tu vois.
Nous, notre intérêt, c'est que les gens, ils soient contents et qu'ils reviennent sur Deezer.
Oui. Ouais.
Après, qu'ils s'occupent pas de leur gosse et qu'ils oublient leur vie et qu'ils restent bloqués sur notre truc comme s'ils étaient addicts, c'est pas du tout ça l'objectif.
Pas crush.
Tu vois, ça nous rapporte rien, en fait, les gens. Donc, on n'a pas forcément de motivation à garder les gens le plus longtemps possible à un moment donné sur l'application. Mmh. Le but est plus complexe que ça. C'est de satisfaire les gens avec des outils qui leur font découvrir des trucs ou qui répondent à leurs besoins.
Comme on le disait,
pour les fidéliser, ça c'est sûr. Donc tu veux les garder sur le long terme. Mais il n'y a pas de notion de là tout de suite, il faut qu'il écoute vite un autre morceau maintenant.
Ouais.
Tu vois, ça n'a pas tellement de sens pour nous.
D'accord. Mais il y a quand même du coup cette. Cette fonctionnalité, je connais pas bien Deezer, mais par exemple, je sais que sur Spotify, même quand je tape un titre bien précis et je ne veux écouter que ce titre-là, si je fais rien à la fin de ce titre, il va me balancer autre chose.
Autre, bien sûr.
Ouais, il va pas me dire, voulez-vous continuer votre écoute? Il va dire, tiens, voilà, voilà autre chose. Et moi, je me retrouve régulièrement à dire, non, mais en fait, je voulais juste écouter un titre, donc fous-moi la paix. Et je crois que c'est un truc qu'on peut même peut-être activer ou désactiver.
Je suis pas étonné qu'il y ait une option, non?
Ouais, ouais, je pense que tu devrais changer de plateforme.
C'est vrai. J'y pense.
Non, mais il y a la même chose sur Deezer, non?
Oui, il y a la même, chose, y a la même chose, tu peux décocher.
Les radios, en fait, ils appellent ça des radios, où puisque tu as écouté ce titre-là, normalement, celui-ci devrait, devrait te plaire.
Ouais, mais il y a vraiment, encore une fois, un choix d'usage de la recommandation ou pas. On a souvent, encore une fois, l'image de cet algorithme omnipotent, omniprésent, qui va aller contrôler tout ce qui se passe. À la fois, dans comme l'app est construit et comme le produit est construit, il y a vraiment un choix d'aller appuyer sur le bouton pour avoir de la recommandation, le choix d'aller dans sa barre de recherche, le choix d'aller consulter sa bibliothèque, le choix d'aller regarder des playlists éditoriales. Donc, il y a vraiment dans le fonctionnement du produit l'opportunité.
Tu trouves ça si transparent parce que autant je te rejoins sur le fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée, entre guillemets, dans la consommation de musique sur une plateforme. Autant comme le disait Daz, tu lances un morceau et tout de suite ça enchaîne derrière. Là, la transparence, elle est un peu moins importante quand même. C'est-à-dire que on ne sait pas si on rentre dans la recommandation, on n'a pas décidé de rentrer dans la recommandation. C'est la plateforme d'elle-même qui va se dire, on enchaîne mon gars et tu vas trouver des trucs qui vont te plaire.
Oui, parce que j'imagine que la plateforme se dit, bah, t'es aussi venu pour ça.
Ouais, bien sûr. Par défaut, c'est quand même une valeur ajoutée qu'on propose aux gens, donc clairement, on l'a
mais encore une fois, il y a parfaitement le contrôle de mettre un titre après, de changer de titre, de pas du tout être captif là-dessus. On va pas forcer l'utilisateur, s'il n'a pas envie d'écouter le titre suivant, il va aller écouter un autre titre.
Mais on sent quand même que c'est au cœur de l'expérience.
Ouais, et en même temps, je pense que c'est important de rappeler peut-être quelques chiffres sur la consommation sur une plateforme de streaming.
Bien sûr.
Alors, j'ai pas les chiffres très précis, mais en gros, quasiment deux tiers des écoutes, elles sont faites d'une façon organique. Ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui choisit quelque chose. Mmh. C'est à peu près deux tiers des écoutes.
Okay.
Et après, le reste, ça va se séparer entre la recommandation qui est faite via des algorithmes, des outils que l'équipe de Thomas développe, et de la recommandation qu'on appelle éditoriale, c'est-à-dire que c'est les playlists faites par des humains. Et ça split à peu près en part égale.
Ouais,
à peu près en part égale.
Ça, c'est cool.
Recommandation algo, recommandation humaine, et les deux tiers, c'est organique. Voilà, ça c'est pour vous donner. Donc en gros, le gros de l'usage et de l'information qui nous sert, nous, c'est ce que les gens vont écouter, ce qu'ils choisissent d'écouter.
Ouais.
C'est ça qui informe le reste des
algos.
C'est vraiment
pour ça que j'insiste sur la partie complément de la recommandation. Ouais. Quand on le voit dans cette part et cette répartition, c'est pas du tout omniprésent. Il y a vraiment cette opportunité.
Ouais, je pensais pas, tu vois.
Après, ça joue un rôle précis. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu veux écouter, t'as pas besoin de nous. Sérieusement. Par contre, il y a des fois, t'as besoin d'un outil. Tu sais pas ce que tu veux écouter. Ouais. Et c'est là que l'outil sert à ça. Et donc les gens, ils ont très bien compris ça et ils s'en servent uniquement pour ça. Et on a quasiment pas d'utilisateur qui est enfermé dans Flow et qui fait que ça, si tu veux. C'est la plupart des gens, ils ont leur bibliothèque, leur collection, leur playlist, leur machin. Ils naviguent entre ça, un peu de recommandations. Ils vont voir des playlists édito. Et ils vont chercher, en fonction du moment, du besoin qu'ils ont, l'outil qui est adapté à leur...
C'est-à-dire que l'utilisation n'est pas monolithique non plus.
Non.
Ouais.
Et la place des playlists dans tout ça, parce que il y a des playlists éditoriales, c'est-à-dire avec des humains derrière, ok. Il y a des playlists que font les utilisateurs, tout simplement. Il y a des playlists, parfois, même des accords commerciaux avec tel on met en avant tel label ou tel artiste, etc., qui a sa propre playlist. Tu parles de commercial parce que j'imagine que derrière, il y a du deal quand même. Lorsqu'il y a une playlist qui est estampillée au nom d'un artiste, j'imagine qu'il y a un deal derrière.
Pas forcément, il y a aussi parfois des partenariats et des choix artistiques, du coup, parce que ça promeut la plateforme, la collaboration.
Et vous utilisez quand même son image, donc j'imagine qu'il doit y avoir rémunération quand même.
Ouais, alors qu'il y a deux trucs à distinguer. Il y a des playlists qui sont genre les 100% Bob Marley, tu vois.
Ouais.
En fait, on s'est rendu compte que c'est un point d'entrée pour beaucoup de gens pour découvrir la discographie d'un artiste. Ils n'ont pas envie de se taper les albums dans l'ordre.
Ouais.
Du coup, en fait, tu crées une playlist C'est un objet playlist et ça répertorie les grands titres, les meilleurs morceaux.
C'est un best-of.
Ça, voilà, c'est le. Mais sous la forme d'une playlist.
Mais là, il n'est pas impliqué directement.
Non, non, pas du tout.
Ça, mais quand il y a vraiment une playlist, une curation, curated by telle personne, tel artiste qui a dit, bah voilà, ça c'est ma playlist, mon choix à moi. Là, j'imagine par contre qu'il y a un deal.
Bah, oui.
Bon, c'est des partenariats éditoriaux. Enfin, tu vois, tu peux inviter un artiste à venir mettre, faire sa sélection des titres pour danser en club à Berlin, et puis tu vas la brander comme ça sur le site. Et puis, mais ouais, là, ça c'est des deals éditoriaux en fait. Tu invites des éditeurs, des guests externes.
Sur la recommandation, un peu la même question que tout à l'heure, à savoir à quoi on se heurte tout de suite quand on cherche à travailler sur la recommandation. Quels sont les défis, dans ton quotidien quasiment? Quels sont les éléments qui ressortent le plus quand tu travailles autour de la recommandation?
Il y a quand même une difficulté extrêmement majeure qui est confrontée vraiment au quotidien. Mais oui,
les gens.
Effectivement, bah, les gens. Parce qu'en fait, nous, derrière les algorithmes, bah, c'est de l'informatique, c'est des mathématiques. Sauf que derrière, bah, on va recommander de la musique. La musique à des gens qui ont des goûts, qui ont des envies, qui sont parfois irrationnels, qui sont touchés aussi par ce qu'on fait, qui peuvent être énervés. On recommande à des artistes, des créateurs. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là, c'est-à-dire cet aspect humain qui est fondamental et qui, surtout, et c'est presque la magie de l'algorithme, c'est qu'il y a du mathématique, de l'informatique derrière, mais qu'à la fin, on produit une expérience musicale. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là et cette responsabilité-là qu'on doit avoir en tête pour pouvoir faire de la recommandation. C'est pour ça que je suis là depuis des années chez Deezer, c'est parce que c'est un travail sans fin, et c'est aussi parce que ben, recommander la musique, c'est pas complètement comme recommander un lave-vaisselle. Enfin, je pense qu'il y a quand même une notion, une responsabilité en plus, et c'est ça qu'il faut qu'on ait vraiment en tête. Donc ça, c'est vraiment la partie extrêmement importante et cruciale.
Et comment ensuite on l'applique tout ça? C'est-à-dire qu'il y a l'utilisateur, Salman, son compte Deezer. Qu'est-ce qui se passe dans les machines, dans les algos, etc., pour dire, Salman, on pense qu'il va vouloir écouter ça après? Qu'est-ce qui se passe globalement? Alors, j'ai 3 milliards de trucs, j'imagine.
3 milliards de trucs, mais je vais résumer en quelques approches. Pas très compliquées, parce que je sais que souvent il y a les gens goûtent. Voilà, il va sortir des formules, il va sortir son ordinateur.
Non, il n'y a pas de tableau blanc, tu vois.
Ça va, tout. Voilà. En gros, globalement, ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est effectivement tracer un profil musical. Un profil musical, donc on va se baser sur les écoutes de l'utilisateur, sur ce qu'il a mis en favori dans l'app. Ceci. Quand on lui propose des titres, ce qu'il n'a pas aimé, il le dit, voilà, il y a des manières de le dire. Et tout ça va permettre de brosser, du coup, un profil musical. Et c'est cette base-là qui va servir de recommandation.
Est-ce qu'on peut prendre en compte le fait, par exemple, qu'il skip rapidement un morceau? Ça peut être pris?
Ça s'est pris en compte et c'est compliqué.
C'était la question que j'avais.
C'est très compliqué. En fait,
pardon, quand je dis skip, c'est-à-dire que tout de suite, après 5 secondes, il passe un autre morceau.
Tout à fait. Et ça fait partie des signaux. Globalement, il y a des signaux qui sont des signaux positifs, c'est-à-dire que l'utilisateur écoute sa musique, qui va mettre en favori, ou va créer une playlist avec ce titre-là. Donc, on est vraiment super content. Là, on se dit vraiment, ça, c'est extrêmement fort. Et puis, les signaux plus négatifs. Quand on lui propose quelque chose, il va aller cocher, j'aime pas du tout ce titre, on me le propose plus jamais. Ou justement, il va passer au skip. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'on a des signaux qui sont très explicites. Vraiment, j'aime pas. Donc là, on a assez peu de place à l'interprétation, même s'il y en a toujours un petit peu. Et puis, il y a ces signaux qui sont beaucoup plus implicites. Et du coup, il faut aussi les comprendre. Et c'est là où on a à la fois des modèles mathématiques, mais on a aussi des modèles de sociologie de qu'est-ce que ça veut dire passer à une autre chanson. On peut dire c'est négatif.
Est-ce que c'est que t'aimes pas?
Ou est-ce que c'est vraiment...
C'est pas adapté
au moment, effectivement. Ou j'aime beaucoup, mais là, en fait, je l'ai trop écouté. Et du coup, là, j'en veux plus. Donc voilà.
Il y a plein de
raisons, en fait, derrière ça. Il y a plein d'interprétations. Et c'est là où la partie des gens qui travaillent dans mon équipe sont des mathématiciens, des ingénieurs, mais qu'il faut qu'ils aient une composante de comprendre ce qu'ils font. Il faut qu'ils aient une appétence avec la musique. Il faut qu'ils comprennent les
utilisations.
C'est pas juste... On applique bêtement des modèles et puis c'est fini.
Et puis avec l'éclairage des équipes de Manu, j'imagine.
Avec l'éclairage des équipes de Manu, parce que leur propre sens, la manière dont on interroge les utilisateurs et qu'on essaie de construire une connaissance avec tout ça pour interpréter finalement le signal.
Il y a un premier truc qui est très frappant sur la musique, c'est que tu ne peux pas prendre l'algo de recommandation d'Amazon et l'appliquer à la musique directe. Parce que, une fois que tu as écouté un titre, tu peux le réécouter.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment très particulier à la musique, la consommation répétée d'un titre. Et en fait, cette consommation répétée, ça fait très longtemps que les sociologues étudient ça. Plus tu vas écouter un titre, plus tu vas te mettre à l'apprécier. Ouais. Jusqu'à un moment donné où t'en as un peu marre et puis tu veux l'oublier un petit peu. Ouais. Après, potentiellement, s'il est lié à une période de ta vie, tu vas l'aimer toute ta vie, ça va rentrer dans les classiques.
Tu es en train de nous dire que le matraquage radiophonique fonctionne, par exemple, à force d'écouter le morceau, tu vas finir par kiffer un peu quand même.
Bah ouais.
Mais oui, je suis
mais bien. J'ai lu un article qui date des années 30 sur ce sujet-là, qui explique, enfin, c'est une expérience où ils font passer des disques dans les années 30 à des gens et puis se rendent compte qu'ils les aiment de plus en plus. Enfin, c'est connu depuis très longtemps. Donc voilà, si tu veux faire un bon algorithme de recommandation, tu dois redonner aux personnes qui ont écouté de la musique quelque chose qu'ils ont déjà écouté. C'est important. En fait, on aime tous réécouter de la musique. Ouais. Alors qu'on n'aime pas tous racheter des lave-linges quand on vient de racheter un...
Même regarder un film, on le fait pas autant.
Même que... Exactement. Un morceau. La pub sur Internet, t'as toujours pas compris ça.
Alors, ça, c'est autre chose.
Ça, qui est...
ça, je suis d'accord avec toi et je comprends pas pourquoi.
J'ai acheté une chaudière.
Bon, 20 fois, le mec, je viens par cliquer.
Je vais avoir des chaudières pendant 3 semaines alors que j'en ai déjà acheté une.
Ouais, ok, ça, c'est chelou. Mais c'est pas ce qu'ils font les autres. Mais nous, enfin, voilà. Pour la musique, c'est important qu'on te recommande des trucs que tu connais déjà. En fait, c'est pour ça que les radios, quand ils font des cycles de programmation, ils passent aussi des gold, des standards, des trucs comme ça. C'est une partie du plaisir qu'on a en tant qu'auditeur, c'est d'écouter des trucs qu'on connaît. Et une autre partie du plaisir, c'est d'écouter des trucs qu'on découvre. Voilà. Ouais. Et donc, tu as cette balance à faire entre les deux. Ça, c'est la spécificité, je pense, de la recommandation de musique.
Et ça c'est un truc que vous apportez aux équipes aussi de Thomas, c'est de leur dire il y a des spécificités, pas forcément celle-là, mais propres à la musique, et donc on essaie de l'intégrer ensuite derrière, j'imagine.
Oui, tout à fait, ça fait partie des éclairages scientifiques. On l'a aussi, nous, avec le terrain, puisqu'on a aussi des contacts extrêmement directs avec nos utilisateurs qui soit viennent le dire au service client, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc on construit effectivement toute cette... Il y en a une connaissance qui est presque de terrain intuitive, et ensuite les équipes de Manu vont apporter l'éclairage scientifique, beaucoup plus cadré avec le recul pour confirmer ou pas nos intuitions. Et effectivement, tout ça alimente notre manière de faire et notre manière de construire. Donc, c'est pas que des algorithmes ou ce genre de choses, mais c'est bien des connaissances que les équipes de Manu nous apportent pour pouvoir mieux éclairer notre travail et mieux orienter notre travail.
Tout à l'heure, on a commencé à décrire un peu le fonctionnement de la recommandation de manière générale, la recommandation algorithmique, hein, parce qu'on avait bien dit qu'il y a une recommandation éditoriale aussi, c'est encore différent, c'est des humains qui disent bah, ça c'est cool, on a envie de le faire découvrir aux gens, pour faire simple. Tu disais que la première étape, c'était le profilage. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ensuite? Comment ça se passe? Tu voulais te lancer un peu dans une explication, si on peut la reprendre.
C'était pour compléter. En fait, ensuite, une fois qu'on a ce profil de l'utilisateur, va entrer le mécanisme de recommandation en tant que tel. Donc, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Manu, sur c'est différent d'Amazon, etc., ce qui est vrai. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les fondamentaux basiques de la recommandation sont à peu près les mêmes. Sauf que c'est justement... toutes ces subtilités-là qu'on a intégrées, la manière dont on traite les données, la manière dont on considère l'utilisateur et l'expérience finale, qui fait que, finalement, ces briques génériques de recommandation, ben, on ne va pas les traiter de la même manière. Okay. Pour te donner un mécanisme de recommandation, il y a deux grandes familles de mécanismes de recommandation.
Ouais.
Premièrement, effectivement, on a ton profil. On sait que tu écoutes, je sais pas, du rap, du rock, du jazz, peut-être. Donc, du coup, on a... réussi à qualifier le contenu que tu as écouté via sa caractérisation, ses métadonnées dont on parlait tout à l'heure, et bah, du coup, on va aller chercher dans le catalogue bah, des morceaux qui ont des métadonnées similaires. On sait que tu écoutes du jazz, on va aller écouter du jazz. On va être peut-être plus fin, tu écoutes du jazz des années 60, on va aller regarder du jazz des années 60 et on va trouver la similarité. Donc, on va vraiment trouver une similarité de contenu. Donc ça, c'est la première grande famille. Celle qu'on pense souvent, en fait, quand on parle de recommandations, les gens qui n'ont pas... connaissance profonde, pensez spontanément ça. Et il y en a une deuxième qui est plus subtile, qui est intéressante, puisque chacune a ses forces et ses faiblesses. C'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. C'est le terme technique, et du coup, vous pouvez le balancer maintenant dans vos soirées. Et voilà.
Très bien, filtrage collaboratif.
Exactement. Ça, l'idée, c'est de dire, en fait, on va être presque agnostique à ce contenu, jazz, rock, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les relations entre les morceaux. Et c'est des relations qui sont créées par les écoutes des utilisateurs.
Les autres utilisateurs.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir ce que l'utilisateur écoute et on va, par exemple, on t'écoute Rihanna et t'écoute Taylor Swift. Et bon, c'est assez facile là-dessus. Mm-hmm. Mais du coup, on se dit, ah, les gens qui aiment Rihanna, ils aiment aussi Taylor Swift. Du coup, tu vas créer un lien entre ces artistes. Et si t'es tout seul à le faire, ça reste anecdotique. Mais si sur la base de nos utilisateurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le font, à ce moment-là, tu arrives à créer des liens entre ces artistes-là. Donc là, c'est des artistes extrêmement populaires. Et tu peux créer des liens plus subtils.
C'est presque du micro-macro, en fait. Il y a une approche individualisée,
exactement.
Puis une autre de comportement de groupe, d'une certaine manière.
Et dans un comportement de groupe, on va aller trouver des patterns, en fait, globaux. Parce que ça, c'est aussi un des apprentissages quand on fait mon métier. C'est on se pense tous un petit peu originaux, original.
Et en fait, on est tout à fait normaux.
Tristement, on est tous normaux et il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent, en fait. Voilà, bien c'est sûr. Des choses, ça rend très humble, mais voilà. Donc ça, c'est cette deuxième approche, de dire que du coup, on va aller créer ces liens-là. Et c'est presque, en fait, une espèce d'image de sirène dépitée, en fait. C'est-à-dire que c'est de la sirène dépitée cachée. C'est-à-dire que...
Pour ceux qui nous écoutent, la sirène dépitée, c'est... À la base, on cherchait pas ça, on fait de la recherche.
C'est du random.
On trouve un truc,
c'est le voyage,
plus que du random.
Oui,
c'est plus que du random.
Il y a quand même la démarche.
Il y a quand même la démarche, mais il y a un peu, voilà, c'est parce que justement...
C'est pas ce qu'on cherchait à la base,
mais c'est parce que d'autres ont réussi à faire ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est ces deux mécanismes qu'on utilise dans nos moteurs de recommandation. Parfois plus l'un, parfois plus l'autre. Souvent, maintenant, dans les méthodes modernes, on va mélanger tout ça pour croiser les informations. Et en fait, c'est ça, le cœur du moteur de recommandation. C'est grâce à ça qu'on va, du coup, proposer du contenu. Et ensuite aussi, comme le disait Manu, il y a toute une approche de comment... Ça, c'est un peu le mécanisme global. Mais après, derrière, il y a plusieurs fonctionnalités de recommandation. Il y a plusieurs usages, il y a plusieurs buts. Et donc, du coup, on va créer des algorithmes, on va créer des... choses un petit peu différentes, avec des algorithmes qui vont aller plus favoriser la découverte ou des algorithmes qui vont aller plus retrouver dans la bibliothèque, des algorithmes qui vont un peu mélanger tout ça. Donc en fait, il n'y a pas qu'une recommandation, il y a vraiment des expériences différentes.
Et comment elles s'adaptent, ces différentes expériences? C'est en fonction de l'utilisateur et de ses usages déjà?
Non, c'est déjà en fonction du produit lui-même. C'est-à-dire que dans Deezer, il n'y a pas qu'un point d'accès de recommandation. Il y en a plusieurs parce qu'il y a différentes expériences, différentes propositions. On a un accès... qui est vraiment orienté avec le flow, qui appuie sur le bouton, mais on a un accès plus où en fait on part d'une track, d'une chanson, et on va aller construire un mix cohérent derrière cette chanson. On a des expériences basées sur les nouveautés. Donc voilà.
Donc il y a une certaine l'utilisateur a une certaine prise sur la façon dont ça va être recommandé derrière.
Exactement. Et en particulier, on a sorti il y a deux ans une fonctionnalité qui s'appelle le Flow Mood, qui est une évolution du flow. Qui est aussi extrêmement intéressante. On en parlait du contrôle de l'utilisateur, des données qu'on pourrait avoir, etc. On a parlé tout à l'heure, on disait, l'utilisateur, certains, ils veulent un peu accéder via les humeurs, les ambiances. Donc, une des approches qu'on aurait pu avoir, qui est un peu une approche scientifique un petit peu fou, c'est dire, on va collecter toutes les données de nos utilisateurs, on va même aller au-delà de ce qu'on peut faire, trouver, et puis essayer de détecter les moods. Ça pourrait être une approche qui, premièrement, est scientifiquement... discutable parce que ça apporte une technicité complète. Et puis aussi, une approche éthique. J'en reviens aussi à l'approche. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Aller à l'insu de l'utilisateur, détecter son humeur,
lire
son ambiance
psychologique, pour savoir s'il
etc.
Vient rompre
et... C'est des choses qu'on n'a pas envie. Ouais, on n'a pas envie. Et du coup, la proposition qu'on fait, c'est de dire, pour faire l'algorithme de recommandation, vous avez un point d'entrée qui est votre flow calme, votre flow, motivation. Et donc, du coup, on accompagne l'utilisateur, il nous donne une petite clé, un petit élément.
C'est lui qui dit dans quel état il
se trouve. C'est lui qui dit dans quel il est, et à ce moment-là, on prend le relais de la recommandation.
Okay. Mais ça, c'est, excuse-moi, Salman, vas-y. Très lié à la culture de l'utilisateur, ce qui veut dire que potentiellement, tu vois, tu faisais un lien entre Rihanna et Taylor Swift, peut-être que ce lien-là, il est évident pour les utilisateurs américains, ce sera peut-être pas le même pour les Français.
Tout à fait.
Mais du coup, l'algorithme, il est régionalisé ou pour la reco ou... Parce qu'on sait qu'il y a des équipes éditoriales qui disent, chez nous, en France, on a envie de mettre ça en avant, ok, très bien. Mais justement, ce lien entre artistes que vous faites... Est-ce que c'est le même pour tous les utilisateurs, où qu'ils soient sur la planète, ou est-ce que...
Intéressant comme question. Rappelle-nous le terme d'ailleurs, c'est collaboratif.
Collaborative filtering, tout à fait.
Voilà, le filtre collaboratif.
Est-ce que
vous le prenez à l'échelle mondiale, ou est-ce qu'effectivement, là, il y a des géographies précises, enfin, vous localisez?
Il y a les deux. Du coup, on a un modèle global, puisque du coup, ça permet d'avoir plus de données, de voir des choses. Mais effectivement, il y a des subtilités suivant les pays. Et derrière, en fait, il y a aussi des autres algorithmes, en fait, qui vont aller justement réordonner les chansons, les sélections pour pouvoir raffiner suivant les pays, suivant le profil de l'utilisateur. Donc,
d'accord.
On va pas être dans une approche brute. Moi, j'ai aussi souvent on parle l'algorithme. Voilà. Moi, j'ai souvent tendance à considérer que même dans un algorithme comme le flow, en fait, il y a plusieurs briques, plusieurs éléments qui sont des sous-algorithmes qui vont chacun répondre à des fonctions.
Le truc monolithique, ça
voilà,
marche pas.
Ça n'a pas de chance. Si on va construire des choses, voilà.
Tu disais quand même que ça vous intéressait pas d'avoir des données, etc. Il suffisait de donner le mood et tout. J'imagine quand même que quelqu'un a déjà pensé à se dire on va géolocaliser parce qu'on sait que quand même s'il est à la salle de sport, il va écouter plutôt type de son. S'il est au boulot, il va pas écouter le même type de son, etc. Je suis sûr que il y a déjà des trucs qui ont été réfléchis en ce sens.
Non, mais on a réfléchi.
Mais on l'a pas fait.
Mais on l'a pas fait parce que pour toutes ces raisons-là, enfin, tout ce raisonnement-là, on s'est dit, il y a une complexité technique, mais il y a aussi cette complexité éthique, et que la réponse est plus simple et mieux, en fait, de vers ce genre de choses. Donc, c'est des débats qu'on a eus, c'est des questions qu'on a eues, mais on a tranché dans ce sens-là, et aussi guidé à la fois par la simplicité technique, mais je le disais aussi sur la partie de comment est-ce qu'on considère l'utilisateur, comment est-ce qu'on considère la recommandation au sein de Deezer et son but, et que, voilà, c'est une de nos réponses et c'est une de nos postures qu'on a pour répondre de cette manière-là.
Alors puisqu'on est dans l'éthique, on a beaucoup parlé de la relation que les utilisateurs avaient avec l'application. Moi, j'ai une question, c'est en termes de métriques, est-ce que, en plus du nombre de lectures classiques pour qu'un ayant droit puisse savoir combien de fois son morceau a été joué, est-ce que vous envoyez d'autres informations liées à l'utilisation du catalogue d'une maison de disques ou d'un truc comme ça? Par exemple, est-ce que vous pouvez envoyer un rapport mensuel à Universal en disant, voilà, bon, ça, c'est le nombre de lectures, mais voilà, sur tous les morceaux de ton catalogue, t'en as 60% qui ont été skippés avant la deuxième minute. De manière à ce que, éventuellement, la maison de disques se dise, ah bah tiens, je vais faire des morceaux de moins de 2 minutes.
Parce que c'est des ressources précieuses, ça.
Bah ouais, parce que c'est comment les gens utilisent le truc. Pour vous, c'est évidemment primordial, mais j'imagine que pour les gens qui mettent leur musique à disposition, c'est super intéressant d'avoir ce genre.
Il y a de la communication de données qui se fait entre les différents acteurs du secteur musical, et vous, vous faites remonter des données?
Ouais, il y a un point d'entrée pour les professionnels, en fait, qui mettent leur catalogue sur Deezer. Deezer for Artists, ça s'appelle?
Non,
ça
a changé. Deezer for Creators.
Deezer for Creators. Donc, c'est une interface dédiée.
D'accord.
Donc, pour les managers de groupe, pour les gens comme ça, qui peuvent suivre les streams sur leurs différents albums, sur les choses comme ça, une fois qu'ils se sont identifiés. Et eux, ils ont accès à tout un tas de choses. Donc, quelles sont les playlists qui ont mis le plus en avant leur titre? Est-ce que ça a été consommé majoritairement via la recommandation, de façon organique? Combien de mises en favoris il y a eu? Combien de streams il y a eu tel jour?
Et le genre, la façon dont les utilisateurs interagissent avec un titre, est-ce qu'ils le savent, ça, par exemple, que ce morceau-là, il est skippé systématiquement, par exemple, sur un album, tu dis, voilà, le track 9, personne l'écoute, en fait, par rapport au volume global d'écoute.
Tu vas le voir tout de suite, hein. Si tu sors un album et que tu as le nombre de streams par track.
Oui, tu vois tout de suite.
Tu vois tout de suite. Ouais,
d'accord. Parce que qu'est-ce qui, parce que ça aussi, c'est une question même qui est intéressante, aussi bien sur YouTube ou n'importe quelle plateforme qui propose du contenu. À partir de combien de temps on considère qu'une écoute est une écoute?
30 secondes.
30 secondes.
C'est le cas sur toutes les plateformes, il me semble.
30 secondes, que ça soit que le morceau il fasse 8 minutes 30 ou qu'il fasse 1 minute 20, 30 secondes, c'est...
Ouais, ça c'est contractuel. C'est
comme ça que t'es rémunéré ensuite, que l'artiste, qu'un stream devient payé à partir du moment où c'est 30 secondes passées.
D'accord.
C'est le fameux... Ouais, non, c'est pas exactement ça?
Si, sauf que on paye pas chaque stream, si tu veux.
Oui.
Le fait que ce soit market-centric fait qu'en fait, c'est pas
absolument
exactement ça que ça se...
Mais en tout cas, c'est comptabilisé comme une vraie écoute, effectivement, voilà, à partir de 30 secondes, et donc ce qui va être monétisé à un moment ou à un autre.
Ce qui m'amène, du coup, à la question sous-jacente, on sait que dans le streaming, il y a des margoulins.
Non, tu sais quoi, juste parce que moi je suis un peu rigide.
Oui.
Tu m'as posé cette question
à la fin, d'accord.
Mais je pense qu'on a fait un bon point sur les fonctionnements, recherche, recommandations, etc. Et peut-être qu'on peut partir sur la troisième, quatrième partie, même peut-être, je sais plus, et peut-être finale de ce podcast, et qui est la question
les margoulins,
des défis, des difficultés, des critiques éventuelles aussi. Et là, je pense que ça peut s'intégrer
tous les dossiers.
C'est comme ça. Après, on pourra chapitrer sur YouTube et tout.
Très bien. Mais justement, le chapitrage, c'est une bonne question. C'est une suggestion. Justement. Donc, on sait maintenant que, enfin, le streaming fait partie de nos vies depuis, donc vous l'avez dit, une quinzaine d'années, sur tous les aspects, que ce soit maintenant même le jeu vidéo, etc. Donc, puisque les artistes sont rémunérés au nombre d'écoutes, globalement, pour schématiser, grande est la tentation d'inventer des écoutes.
Oh, ça se fait, ça?
Ça pourrait se faire.
Non, ça n'existe pas, ça.
Ça pourrait se faire. Ou en tout cas, ne serait-ce que pour le classement. Parce que, mettons que je suis un jeune artiste et que j'ai du potentiel, mais que malheureusement, le monde n'est pas encore au courant. Bon, je me dis, peut-être que je devrais un peu artificiellement pousser ma popularité pour faire en sorte que je remonte dans
les élections. Mais ce serait terrible, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent pour pouvoir faire ça, ils sont favorisés?
Ben oui.
Non, je pense pas que ça marche comme ça dans l'industrie de la musique, les mecs. Ça se saurait.
Non, du coup, on a beaucoup parlé des algorithmes qui permettent de coller vraiment au plus proche de l'utilisateur. J'imagine que vous avez des algorithmes Cerber qui traquent potentiellement les margoulins, les gens qui achètent des streams, les fermes d'écoute, ne serait-ce que par exemple la localisation, l'IP utilisée, ou etc. Vous avez potentiellement plein de moyens de...
Il y aurait même un deuxième sujet, peut-être qu'on le fera juste après, mais c'est, je suis sûr qu'il y a aussi plein de titres fantômes sur votre catalogue, dans votre catalogue,
etc. Jamais joué.
Et que, pareil, c'est-à-dire qu'il y a la fraude des utilisateurs, pour avoir plus d'écoute, etc. Mais il y a aussi plein de morceaux qui sont mis
jamais
là. Ou parfois même qui sont là uniquement pour générer des vues, mais en fait, qui sont pas réellement de la musique. Enfin, des streams. Et il y a aussi, mais on commençait avec, en gros, l'effet stream.
Ouais.
Est-ce que vous intervenez sur la question d'effet stream? Est-ce que il y a
en termes de recherche par exemple, est-ce que il y a
des équipes dédiées à ça chez Deezer. Mm-hmm. C'est un sujet qui est là depuis très longtemps, effectivement, et c'est un sujet qui était relativement brutal il y a encore 7-8 ans. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais des fermes de clics.
On les connaît.
Ils créaient des comptes. Ces comptes, ils streamaient 24/24 le même contenu. Avec ou 31 secondes, paf, voilà. Je passe à la chanson d'après.
C'est ça.
Voilà, ça, on a mis très vite en place des méthodes pour les détecter, pour les sortir.
Parce que tu vois d'où vient la source, de consultation, en gros.
Et puis la méthode de consommation aussi.
En fait, personne
n'écoute que 30 secondes.
Ouais, personne n'écoute le même titre pendant 31 secondes, 24/24. Personne de réel.
Ou alors fait une personne dans le monde, tu vois, mais qui est un peu monomaniaque, mais oui, effectivement.
Ouais, et puis si on le compte pas, finalement, c'est pas grave, parce qu'il est vraiment bizarre ce mec.
Ouais.
Voilà, donc. Globalement, en gros, si tu veux, c'est de la détection d'anomalies. Mmh. Tu vas regarder le comportement moyen des gens. Les gens, d'habitude, ils dorment la nuit.
Ouais.
Et les gens, d'habitude, ils passent pas les 16 heures qu'ils ont éveillées à écouter une même chanson pendant 30 secondes. D'habitude, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Mais si c'est...
J'en connais.
Donc voilà, les gens qui écoutent que le même contenu, ou du contenu qui appartient que à un label qui vient d'apparaître et qui... Voilà, qui
bizarre.
Toutes les tracks font 31 secondes et c'est, voilà. Ouais. Et qu'il y a 5000 utilisateurs dans le monde qui connaissent ce label et ils écoutent tous ce label. Enfin voilà. En gros, assez vite, tu repères les mecs et tu peux mettre en place des filtres, des barrières, des trucs comme ça.
Et dans ce cas-là, quand tu mets en place des filtres, c'est-à-dire tu discardes tu mets de côté les écoutes au niveau des stats ou tu bannes les comptes directement et là c'est.
Alors. Il y a deux possibilités.
Pour activité suspecte.
Tu peux ban les comptes.
Ouais.
Mais en fait, le plus important, c'est d'aller report aux maisons de disques la règle que tu mets en place.
D'accord.
Parce qu'en fait, à la fin, ça va changer la façon dont la rémunération se fait. Donc, d'abord, tu détectes ces comportements. Ensuite, tu vas voir les ayants droit, les maisons de disques, et puis tu leur présentes le truc, tu dis, bon, voilà. Les gens qui font ça, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les compte pas? Une fois que tout le monde est d'accord, tu sais les nouvelles règles. Et donc après, tu les comptes plus dans les... Dans
c'est le dialogue social.
Mais ça veut dire qu'il faut que...
En fait, on t'est obligé, parce que contractuellement, si tu veux, tu vas virer des streams de la comptabilité globale. Donc il faut que tous les gens qui sont impactés soient à peu près... Alors évidemment, tu vas pas inviter le label machin en lui disant « Toi, tes streams, on va pas les compter.
»
Mais généralement, il répond pas à tes mails de toute façon, parce que c'est pas son...
Non mais du coup, effectivement, ça sous-entend qu'il faut que l'intégralité des maisons de disques ou des ayants droit des labels se mettent d'accord, valident ce truc-là ou...
Ça veut dire que si tu changes les règles du jeu, faut que tu préviennes tout le monde.
Et donc si... Ah, tu préviens.
Ouais,
tu préviens. Tu demandes pas l'avis, tu préviens.
Tu préviens et puis tu fais quand même en sorte que les gens soient d'accord.
D'accord.
Et enfin, une fois que tu présentes ce genre de comportement aux gens, c'est assez, tu vois, les bots.
Personne n'a intérêt à garder ça de toute façon.
Personne n'a intérêt à garder ça. Ça nique tout le monde. Voilà.
Est-ce qu'il y a
après,
d'autres... d'autres types de fraude?
Bah ouais, parce qu'évidemment derrière, si t'es un peu intelligent, tu vas pas faire un bot qui stream 24 heures sur 24. Tu vas pas faire un bot
qui s'arrête à 31 secondes.
Qui s'arrête à 31 secondes. Et tu vas de plus en plus faire des bots qui simulent des comportements humains.
Ouais, genre organique un peu.
Bah ouais.
Ouais.
Ça.
Et c'est pour ça qu'on a des équipes qui travaillent vraiment, parce que c'est une course à l'armement, en fait, d'aller trouver des algorithmes qui vont détecter des patterns. Ensuite, les fraudeurs vont être plus malins et vont essayer de trouver des choses pour contourner les algorithmes.
Mais à la fin, ils vont faire un bot qui est complètement humain, donc c'est génial. On arrive à la singularité de se dire, ça se trouve, le bot, il s'en jaillit réellement.
Et singularité par la fraude.
Exactement. Non, mais voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, les bots sont plus compliqués qu'avant. Mmh. Du coup, tu dois mettre en place des mécanismes plus compliqués pour les détecter. Et si tu vas prendre en tout un tas d'indicateurs...
On comprend qu'on ne va pas en parler là pour ne pas donner de mauvaises idées, même si l'intégralité de la communauté qui regarde dans le tempo est généralement
bien intentionnée.
Plutôt bien intentionnée, mais on ne va pas vous demander de rentrer dans les détails et de donner vos arcanes, parce que voilà.
Et en plus, ce n'est pas vraiment notre domaine d'expertise chez Deezer.
Mais c'est en tout cas un sujet qui est extrêmement pris au sérieux, Deezer, avec des équipes dédiées, de la recherche en machine learning extrêmement poussée, justement, pour arriver à détecter tous ces comportements et les éliminer.
Et est-ce qu'il y a une coopération entre les différentes plateformes de streaming, par exemple, est-ce que ça peut arriver de partager des infos ou des idées avec Spotify, par exemple?
Ouais. En fait, il y a une entité qui s'appelle l'ESML, qui est le syndicat des éditeurs de musique en ligne.
D'accord.
Dans lequel il y a Deezer, Spotify, tout un tas d'acteurs du monde des DSP globalement. Et ce genre de sujet, c'est ce qui est discuté dans les instances.
Et globalement, alors, c'est la concurrence, j'imagine. Pour autant, est-ce que c'est vraiment c'est féroce ou est-ce qu'il y a du dialogue? Comment ça se passe les relations avec les autres plateformes? Est-ce que par exemple vous avez des relations avec d'autres employés qui font pourquoi pas qui ont le même job que vous? Est-ce que vous échangez aussi sur la nature même de votre job? Sur ah tiens j'ai trouvé un truc intéressant, machin, ça peut arriver ou c'est vraiment c'est chacun pour sa gueule franchement.
Alors
est-ce qu'il y a des espionnages? Alors est-ce qu'il y a des espionnages industriels?
Bah alors,
c'est pas pareil chez moi.
En fait, moi, je viens, si tu veux, d'un domaine académique dans lequel plein de gens sont maintenant chez Spotify. Des gens que j'ai côtoyés en colloque, qui étaient en doctorat au même moment que moi. Et quand je continue à aller dans des colloques scientifiques, je croise ces gens-là qui étaient mes copains, qui sont encore mes copains. Donc oui, je parle avec eux parce que c'est des êtres humains gentils et que j'essaie d'en être un aussi. Et voilà, dans la partie recherche, si tu veux, c'est un monde qui est relativement ouvert. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de publications sur les systèmes qu'on fait. Ces publications, elles sont ouvertes, tout le monde peut les lire, y compris nos concurrents. Et nos concurrents, ils font pareil. Et voilà, il se trouve que c'est pas le monde des bisounours, hein, tu vois. On fait ça pour une bonne raison, qui est aussi de mettre en avant la techno et l'expertise qu'on a en interne. Donc on a des bonnes raisons de faire ça. Mais au final, l'information, elle est partagée. Et elle circule et elle est globalement assez collaborative au sein de la recherche entre les différents acteurs.
Et ça peut vous arriver de trouver chez la concurrence un truc où vous savez que vous avez eu l'idée en premier et, tu vois, tu parlais des lyrics tout à l'heure. Bon, ça, c'est plus lié à une temporalité qui fait qu'à un moment donné, les gens ont voulu les paroles des chansons,
Parce que Manu, il disait qu'en gros, et puis en plus, dans la recherche, la collaboration, c'est quand même un truc qui est mis en avant, en théorie, tu vois. Toi, tu disais que c'est pas exactement la même expérience.
On a quand même... Enfin, on a des gens qui travaillent chez Deezer, qui chantent Spotify, donc effectivement, on va pas les blacklister, on va conserver des relations normales. Par contre, on a effectivement des secrets industriels et ce genre de choses, on ne va pas aller parler très concrètement de nos sujets avec nos concurrents directs puisqu'ils sont exactement sur le même terrain. Donc, on va avoir des relations totalement saines, notamment via des conférences. On a une conférence mondiale qui s'appelle REXIS, qui est la conférence de tous les systèmes de recommandation. Là, tous les gens qui font la recommandation de chez Spotify, de chez Netflix, de Amazon sont là. Donc, c'est là où on partage les articles qu'on publie. Mais on va pas aller parler de nos secrets, nos petites tambouilles, nos petites problématiques. Et clairement, enfin, on est des entreprises concurrentes. Donc,
Et Daz demandait si c'était déjà arrivé que parfois, cette feature sur laquelle on bosse depuis longtemps, tout d'un coup, ils la sortent et ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait.
Ouais, ça, c'est plutôt les équipes produits, tu vois. Enfin, globalement, nous, on n'est pas trop sur l'interface de Deezer, sur les produits, sur les choix qui sont faits là-dessus. Mais oui, ça se tire la bourre sur qui va sortir ça en premier.
Après, oui, on fait de la veille. C'est-à-dire qu'on va aller surveiller ce que font nos concurrents, ce que font les autres plateformes de recommandation, ce que fait Netflix, ce que fait Amazon, on voit ce qu'ils ont fait, on fait « Ah, ils l'ont fait comme ça, ah oui, ça c'est une bonne idée, ou peut-être nous on l'a pas fait comme ça, c'est peut-être mieux, on est satisfait. » Donc c'est le travail quotidien de se tenir au courant de ce que font les gens, de s'inspirer parfois sans copier, en étant différent, et voilà, et de voir « Ah tiens, eux, ils ont traité le sujet comme ça, ah ouais, ils ont eu le même problème que nous en fait, et on voit qu'ils l'ont traité de cette manière-là, etc. etc. » Donc c'est vraiment le travail... classique aussi normal de notre travail, de savoir ce que font les autres, de s'inspirer, voilà.
Tu vois, là, on a sorti une feature il y a pas longtemps, qui est une feature de blind test. Donc, tu peux prendre n'importe quelle playlist sur Deezer, et puis il y a un petit bouton, et tu dis faire un blind test avec cette playlist.
C'est trop bien.
Et c'est super rigolo, et t'as genre 30 secondes pour trouver la chanson, et puis t'as un choix, machin.
Attention, parce que 30 secondes, du coup, ça veut dire que l'utilisateur passe pour un bot. On peut se faire shadow ban. Faites gaffe.
On va rester sur la section margoulin là. Bon, voilà. Donc ça c'est assez rigolo. On a plein de très bons retours de nos utilisateurs. Ouais, c'est cool de pouvoir faire des blind tests sur tous nos contenus. Voilà. Si Spotify sort la même feature demain, il y aura des articles dans la presse genre Spotify sort la killer feature. Voilà. Des fois c'est eux en premier, des fois c'est nous en premier. Ouais. C'est normal que si c'est cool, c'est cool. Tu vois. Au bout d'un moment.
Est-ce que
oui, on va pas s'interdire de mettre en place un truc cool parce que d'autres l'ont fait avant.
Bah non,
voir c'est parfois nécessaire pour survivre, de se dire tiens, on va faire la même chose. Ouais. Est-ce que à l'inverse, il y a parce que l'industrie musicale, elle s'organise en différents acteurs avec pas forcément les mêmes intérêts, etc. D'ailleurs, il faut pas confondre non plus les plateformes de streaming avec les maisons de disques, avec les labels et les endroits, parce que c'est pas les mêmes intérêts, même si c'est même parfois compliqué. Est-ce que les plateformes, par exemple, elles se réunissent pour faire, je sais pas, du lobbying, pour avoir une forme, je sais pas, une forme de syndicat, une forme de, tu vois, de pour bien faire, pour défendre les intérêts. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, le SML. Alors, tu vois, typiquement, il y a une action en cours au Parlement européen ou à la Commission européenne. Je pense à la Commission européenne. Contre Apple pour violation de règles de la concurrence. Parce qu'en fait, Apple Music, c'est un concurrent à nous. Mm-hmm. Mais en fait, si tu t'abonnes à Apple Music, ça coûte 10 euros. Et si tu veux t'abonner à Deezer sur l'App Store, bah, ils prennent 30%.
Mais ça, ils ont le même problème sur tous les...
Ouais. Et du coup, bah, le syndicat des éditeurs de musique en ligne peut se réunir et puis, entre DSP, on se met d'accord pour dire bah, ça, c'est une violation de la concurrence. Tu vois. Les mecs...
Oui, du coup, ils sont moins chers sur leur téléphone, en plus.
Ouais, voilà. Donc, ouais. En gros, c'est pas juste. Donc, on se met ensemble avec nos concurrents pour attaquer sur ce genre de choses. Mmh. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Après, il y a des trucs plus consensuels, tu vois. Typiquement, il y a cette instance qui s'appelle le CNM, le Centre National de la Musique, qui a été créé.
Absolument.
Qui lance plein d'études sur les effets de la recommandation, sur la diversité de consommation des choses comme ça. Bon, là, c'est plus volontaire, tu vois. On va participer collectivement à des études sur les impacts de changement du mode de rémunération, sur la mesure de la diversité dans la consommation musicale, dans des trucs comme ça. Là, c'est plus, on va dire...
Oui, c'est de la recherche. Et c'est
voilà. Collaborativement, on se met ensemble parce qu'en fait, on est dans le même métier et qu'on a des problématiques qui sont communes.
Est-ce que justement, parce que moi, j'ai vu les dernières campagnes de pub de la FNAC, par exemple, où on voit clairement qu'ils commence à se mettre en opposition à l'algorithme, ou tout algorithmique, en disant, nous, on a encore un être humain. Tu vois, la pub, tu vois un mec qui passe derrière un rayonnage de livres et puis qui pousse un bouquin pour que la cliente qui est de l'autre côté, elle ait le bouquin qui sorte de... Tu vois. Est-ce que vous percevez un changement de la perception de l'algorithme? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était peut-être un truc très, très bénéfique et super mis en avant et en tout cas bien reçu par le public. Et est-ce que vous voyez pas un petit côté diabolisation peut-être de l'algorithme? Est-ce que chez vous, c'est un sujet de se dire il faut quand même que ça reste accepté?
Plein de gens pointent à juste raison du doigt le fait que bah, c'est une forme d'enfermement aussi parfois.
Oui et non. Alors, mais c'est un sujet effectivement sur lequel on est conscient. Moi, j'ai presque l'impression que ça l'est moins. C'est-à-dire que j'ai senti un pic il y a 2-3 ans où va vraiment une animosité et justement, on continue de parler d'expliquer ce qu'on fait, comment on vient ici. Enfin voilà, on a une forme de transparence, d'éthique. Enfin, c'est des choses qu'on revendique et qu'on essaie d'expliquer le plus possible et d'être le plus clair possible. Encore une fois, je me répète, mais c'est sur la plateforme, il y a aussi des éditos humains,
oui,
des
oui, êtres oui,
humains.
Sûr,
donc
ouais.
c'est aussi pour ça qu'on est extrêmement serein et que même notre approche, même de l'algorithme, n'est pas d'enfermer les gens là-dessus. Et aussi, et là, c'est aussi le travail de Manu, et j'ai de passer la parole sur ce sujet-là. Il y a aussi effectivement une critique évidente qui arrive et qui est spontanée de l'algorithme, c'est-à-dire, mais vous, l'algorithme, vous enfermez les gens, vous empêchez la découverte, vous créez une culture monolithique, etc., etc.
Ce qui peut s'avérer vrai, hein.
Ce qui pourrait s'avérer vrai. Et qui est une question légitime. Et c'est aussi.
Mais
pour
du
ça.
Coup, on a fait l'expérience. C'est-à-dire que nous, on peut compter, tu vois, on peut comparer entre les gens qui utilisent l'algorithme et ceux qui ne l'utilisent pas. Tu vas compter le nombre d'artistes différents, de genres différents, d'albums différents, de chansons différentes qu'ils écoutent au cours du temps. Et puis tu regardes comment ça évolue en fonction de l'utilisation ou pas des moteurs de recommandation.
Et qu'est-ce que ça a donné?
Ben en fait, ça donne qu'il y a plutôt une corrélation positive entre le fait d'utiliser des outils de recommandation et le fait d'augmenter la taille de ta librairie et de ce que t'écoutes.
Parce qu'en fait, c'est du quantitatif, donc c'est, je sais pas si ça permet de.
Bah, oui, mais la qualité, c'est...
Enfin, qualitatif au sens où je veux dire, c'est ce que vous pouvez prendre comme critère le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes différents, des genres différents, etc. Mais peut-être que c'est en nombre, ça fait beaucoup de genres, mais qu'en réalité, ils sont tous issus, par exemple, de la musique populaire. Je sais pas, tu vois.
Alors, il y a peut-être des variables.
Ou de la musique occidentale, etc. Enfin, tu vois, après, il faut.
Il y a peut-être des variables cachées. Ça, c'est vrai. Et parmi les variables cachées, la première, c'est qu'en fait, bah, les gens qui utilisent la recommandation, et beaucoup la recommandation algorithmique éditoriale, c'est peut-être un certain profil de gens qui ont de l'appétence pour la nouveauté, pour la découverte, pour les trucs comme ça. Et c'est vrai, je veux dire, quelqu'un qui s'est fait une playlist sur Deezer et qui vient tous les jours écouter sa playlist sur Deezer, bah, il va pas avoir de la diversité. Et en même temps, bah, c'est pas non plus la faute de l'algo, si tu veux. Mec, il... tu vois, au bout d'un moment.
Oui.
Donc, la question, c'est, voilà. Est-ce que sur le long terme, utiliser ces outils-là, ça a tendance à réduire le champ de ce que les gens écoutent ou pas? La réponse, c'est plutôt non. Enfin, c'est aujourd'hui dans les expériences qu'on peut faire sur la musique et sur les comportements sur Deezer, on n'observe pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de biais algorithmiques, qu'il n'y a pas des problèmes de choses qu'il faut qu'on étudie, qu'il faut qu'on mesure. Et on est conscient qu'il y a une responsabilité éthique super importante sur les algos. Mais sur procès en enfermement, en tout cas, je pense qu'on est en train d'en sortir, comme dit Thomas.
En tout cas, voilà, on traite ces questions-là. On les traite sérieusement. On les traite en plus. C'est un papier de recherche académique qui a été validé par des pairs académiques qui est...
On a même sorti les données, si tu veux. On les a fait en collaboration avec d'autres chercheurs.
Et dans une certaine neutralité.
Ouais.
On essaye.
En tout cas, oui, une éthique.
Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment un effort. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de notre travail d'aller dans ce sens-là. Ça fait partie des challenges. Cette transparence, elle n'est pas que déclarative, elle est aussi dans les faits et dans les actions qu'on fait.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre type d'enfermement qui est aussi... parce que quand on parle de 90 millions de titres, c'est monstrueux, bien entendu. Mais par rapport à toute la musique qui se fait, c'est pas si énorme. Et que... d'une certaine manière, vous limitez aussi à, d'une part, une musique commerciale, avant tout.
Commerciale au sens, elle doit être vendue ou...
Oui, non, au sens où, simplement, elle a été produite aussi dans l'idée de la vendre, tout simplement. Alors qu'une part de la culture de la musique, c'est aussi de créer de la musique libre, tout simplement, sans tu vois, qu'il y ait un processus d'échange commercial derrière, etc. Donc, alors, je sais que c'est pas le but en théorie de Deezer, mais toujours est-il que, est-ce que vous réfléchissez aussi sur le fait que, c'est aussi une part de la culture de la musique, mais qui reste limitée. C'est pas toute la musique. C'est pas.
Alors, ouais.
C'est une part d'enfermement aussi.
Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand dans l'histoire de l'humanité, t'as eu accès à autant de musique non commerciale? Ouais. Tu vois, moi sur Deezer, j'ai un album où c'est ma fille que j'ai enregistré quand elle avait 4 ans qui chante des comptines, parce que ma copine, elle aime bien écouter ça dans le métro. Moins commercial
t'es
que ça.
T'es passé pour un distributeur pour la mettre en ligne.
Ouais, carrément. C'était un cadeau de fête des mères. Okay. Super tips pour vos auditeurs. Super cadeau de fête des mères. Bon, moins commercial que ça, si tu veux, c'est pas possible.
Est-ce qu'il y a des écoutes autres que les tiennes?
Je crois pas.
C'est incroyable.
Ça peut peut-être créer un nouveau genre musical.
Tu peux demander à Thomas dans la gauche.
J'espère pas qu'il y a des écoutes. Mais en fait, la barrière pour faire ta musique et la mettre sur des plateformes de streaming, elle est pas incroyable. Donc n'importe qui...
C'est pas YouTube non plus, mais c'est quand même très faisable.
C'est quand même très faisable. Et énormément de contenus sont autoproduits aujourd'hui. Beaucoup plus qu'à l'époque où les maisons de disques contrôlaient ce qui arrivait dans les rayons de la Fnac.
Vous avez les stats sur les titres qui sont jamais écoutés sur votre plateforme? Sur les 90 millions de titres, pourcentage? Je crois que c'est assez énorme en réalité, ou très peu écouté.
Ouais, et en même temps, il faut faire un peu gaffe, parce qu'il y a beaucoup de titres qui ont été écoutés et qui ne le sont plus maintenant. Donc ça dépend de la plage temporelle que tu regardes. En fait, les profils de consommation dans la musique, ils peuvent être très marqués. Tu vois, ça va être consommé pendant un moment et oublié. Et peut-être consommé plus tard si c'est mis dans la BO d'une série Netflix, un truc comme ça. Donc en fait, t'as des patterns.
Pense à toi, Kate Bush.
C'est fort. Pense à toi, Kate. Moi, j'adore Kate Bush. Très content pour
aussi. On aime tous Kate Bush.
Mais voilà. Donc jamais écouté. En fait, c'est compliqué comme question. Jamais écouté depuis 15 ans ou jamais écouté cette année. Des trucs pas écoutés cette année, il y en a plein. Mais peut-être qui ont été écoutés.
Mais des trucs pas écoutés all time.
Il me semble qu'il y en a beaucoup.
Pas écoutés all time, il y en a aussi, ouais.
Ouais.
Et c'était capable de. Vous êtes capable de nous dire un pourcentage, un truc ça?
Là,
je crois qu'on néglige en général et qu'en fait ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties des catalogues, il me semble.
Ouais, je pourrais pas te donner un chiffre.
On cherchera si vous avez dans les commentaires, peut-être, vous pouvez nous dire ça.
Mais ça veut dire qu'ils bossent chez Deezer.
Ouais, ce serait super chelou.
Non,
il y a plein de gens de chez Deezer qui vont regarder. Donc si ça se trouve, des collègues,
pas forcément chez Deezer, mais en tout cas, je sais qu'il y a déjà eu des statistiques là-dessus.
Ouais.
Peut-être sur d'autres plateformes, je sais pas.
Oui, comme les vidéos YouTube à 10 vues.
En tout cas, il y a déjà eu. C'est une question qui s'est déjà posée avec des réponses apportées. Je sais pas quelle est leur valeur, mais peut-être que les gens peuvent nous aiguiller là-dessus, effectivement.
Bah, de toute façon, il y a un effet, ce qu'on appelle longue traîne. C'est-à-dire qu'effectivement, la majorité des écoutes, elles se. Je vais pas dire de conneries, mais. Une écrasante majorité des écoutes, elles se font sur entre 15 et 20 millions de tracks. Tu vois, si t'as 15-20 millions de tracks dans ton catalogue, t'as déjà beaucoup d'écoutes. Après, ça veut pas dire que le reste n'est pas écouté. C'est ça que je veux dire. C'est que ça peut être les chansons de ma fille, des trucs comme ça. Il y a des écoutes, et c'est pas que les chansons de ma fille pour le reste.
Elle est très productive.
Il faut que j'arrête avec cet exemple.
J'ai l'impression que tu veux faire monter ce titre.
Je veux tout miser sur ma fille pour devenir riche. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des chansons qui peuvent être très très localisé dans un cercle super restreint, tu vois, un enregistrement d'un chant traditionnel qui est écouté par les gens qui ont fait enfin tu vois, il y a une diversité dans le catalogue qui est incroyable.
Il y a pas de grosse barrière insurmontable à l'entrée, en tout cas.
Non.
Ouais.
Franchement, par rapport à ce que ça a pu être dans le monde ouais. du disque ou des choses comme ça.
Oui, bah, c'était inenvisageable en fait.
Aujourd'hui, n'importe qui peut enregistrer quelque chose et en faire un album. Enfin, c'est un problème pour nous en fait, ça plutôt, si tu veux.
Ouais. Parce que du coup, juste un point purement technique, au niveau de la répartition géographique en termes de serveurs par rapport au. Parce que j'imagine que les 90 millions de titres, il faut les stocker quelque part.
Mmh. Ouais.
Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que y a vraiment. C'est centralisé et vous avez des serveurs de stockage en France et après, en fait, vous balancez le contenu aux clients directement? Est-ce qu'il y a des serveurs intermédiaires qui, du coup, prennent les titres les plus écoutés pour qu'ils soient un genre de cache disponible plus rapidement pour les utilisateurs en fonction de la popularité de...
Ouais, il y a plein de niveaux de cache différents. Il y a des ouais. niveaux de cache, par exemple, les chansons que tu écoutes tout le temps, elles peuvent être même en cache sur ton téléphone.
Oui, en cache sur le téléphone, ouais.
Comme ça, il n'y a même pas de
juste
transfert.
Juste pour qu'on précise, quand on dit en cache, en fait, c'est-à-dire qu'une partie des données est sauvegardée, en gros.
Non. Bah, disons qu'elle est stockée sur un serveur intermédiaire qui est ouais. plus rapide, qui est okay, plus facile d'accéder.
Plus facile, ouais,
très bien. Plus
après, il ne faut pas qu'on te dise lesquels, parce que sinon, les attaques des DOS, c'est super.
Ok.
Mais oui, c'est exactement. Enfin, ouais. C'est une infrastructure qui est très, très élastique et qui, est, ouais. qui utilise les caches locaux pour. Pour
mais du coup, le gros de la bibliothèque est stocké en Europe ou, est-ce que la bibliothèque centrale, principale, s'il y en a une, est-ce que, par exemple, est-ce que Deezer peut dire l'intégralité de nos morceaux sont dans la communauté européenne, nous ne sommes pas un féodé aux États-Unis. Tu vois, un genre de.
Ouais, je pense qu'on peut dire ça, à mon avis.
C'est le cas surtout pour nos données utilisateurs qui sont effectivement hébergées en Europe. C'est principalement sur le contenu musical. On a des CDN.
On n'a pas de data center en dehors de l'Europe,
non,
de toute façon.
Ça non.
D'accord.
Donc, ouais, tout
après,
est
les CDN.
Ouais, les CDN
partout,
là-dessus, ouais. mais voilà, en particulier nos données utilisateurs sont vraiment.
On en avait il y a longtemps et on les a fermées, je pense.
Ouais. Moi, les CDN, j'aime pas ça. Non, je sais pas ce que c'est qu'un CDN.
C'est des serveurs intermédiaires en fait, comme tu as sur YouTube, pour éviter de downloader ta vidéo YouTube que tu regardes chez toi depuis le serveur de Google. En fait, ils te mettent ça sur des trucs plus proches.
Ok, et utilisé pour les caches aussi, ce dont tu parlais.
Bah, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que localement, le contenu qui est très écouté dans une zone géographique va être sur un serveur qui est facilement accessible par beaucoup de gens.
Pour terminer, dernier truc. Sans rentrer dans les détails, parce que voilà, ça fait quelque temps qu'on discute. Mais comment vous imaginez l'avenir? Quelles vont être les grandes étapes du streaming demain? Est-ce que le modèle va rester à peu près le même? Est-ce qu'il va devoir forcément évoluer, mais même drastiquement? Est-ce que la consommation de musique, elle passera encore par le streaming demain? Enfin, je sais que c'est énorme, hein, mais vous réfléchissez forcément à ça, j'ai dit déjà.
Beaucoup de réflexions, beaucoup de réponses. Une réponse premièrement algorithmique qui va. On a beaucoup de techniques. Qui arrive, qui s'améliore. On a toujours beaucoup de recherches de précision. Je remets une couche sur la transparence et l'éthique, mais c'est, je pense, une composante vraiment importante dans le développement des algos, dans la manière dont on les présente. Donc ça va être vraiment des enjeux des prochaines années.
Ouais, et c'est la fin du Far West, quoi.
Bah, oui, je pense que faut vraiment, c'est vraiment une nécessité de créer ce lien avec les utilisateurs. Donc c'est vraiment
confiance,
des choses qu'on a. La confiance, elle est indispensable. Et donc c'est juste qu'on a déjà mis en place, mais qu'on continue et qu'on va encore insister dessus. Et pour parler plus généralement du streaming, de ce qui va se passer. Alors, je ne peux pas vous donner l'avenir parce que sinon je serai le roi du pétrole. Mais globalement, on voit qu'on a des nécessités de différenciation. Le streaming n'est clairement pas mort. Mais ce qui est important, c'est que c'est le voir comme un élément de la vie de l'utilisateur et d'arriver à créer sur ces plateformes de streaming des expériences musicales au-delà de la simple consultation du catalogue. C'est ce qu'on a commencé à faire avec les expériences d'algorithme. On l'a fait avec le blind test, arriver à montrer qu'on peut s'amuser, partager avec la musique, avoir des relations avec les artistes. Donc, c'est vraiment remettre encore plus ce côté humain et, en fait, trouver le moteur, la musique, comme un moteur et un lien avec les gens.
Daz,
suggestion de Daz Consulting LLC. Donc, en plus des samples potentiels, plus les crédits complets pour les titres.
Vas-y, faites-le.
Le chapitrage. Le chapitrage, genre pouvoir trouver directement le solo de guitare sur Hotel California sans avoir à me taper tout le morceau.
Ah
même
ouais.
Chose pour Purple Rain, ça serait intéressant, tu vas dire guitare, pas
niche
guitare.
Ou pas
giga niche, ok.
Giga niche, mais encore une fois, on est dans la même niche. Enfin, tu vois, à fond là-dessus, c'est un vrai sujet de recherche très rigolo, la structuration des morceaux de musique, découvrir des couplets, refrains, des machins comme ça. C'est...
Ouais, tu vois, moi j'aimerais bien, par exemple, pouvoir dire balance-moi des titres de soul avec à un moment donné un bout d'instru. tu vois, où le mec arrête de chanter et puis il y a que les instruments qui tournent, genre à la Barry White ou ce genre de choses.
Je rebondis sur ce que tu dis pour mettre en lumière un des métiers de Deezer dont on n'a pas parlé, qui est important notamment dans la partie recommandation, c'est tout ce qu'on appelle les product managers, c'est-à-dire les personnes qui vont créer le produit, qui vont du coup prendre notre algorithme et créer une vraie expérience derrière, et qui vont prendre des gens comme toi, Daz, et qui vont écouter tout ce qu'ils ont à dire.
Je suis disponible, appelez-moi.
Qui vont écouter et qui vont dire, ça c'est intéressant, effectivement, Daz, bon, ça sur celui-là, t'es un peu le seul à le dire, donc on va peut-être pas le faire, mais par contre, il y a plein de gens comme toi qui disent ça, qui du coup vont construire le produit en fonction de tout ce que nous disent nos utilisateurs, etc. etc.
Mais parce qu'en fait,
c'est vraiment un métier important, et même dans la recommandation, enfin, il n'y a pas que l'algorithme, il y a vraiment tout ça qui crée l'expérience complète.
Et vous pensez que c'est amené à être encore plus développé, le côté curation humaine, vraiment, l'éditorial humain, parce que c'est un coup, on le sait aussi, c'est un coup différent. Globalement, la tendance, elle est à plutôt éliminer l'humain le plus possible, parce que ça coûte cher, en général, l'intervention humaine.
Ouais, mais c'est critique, en fait. Enfin, tu vois, pour distinguer, on parlait il y a très longtemps de la qualité, tu vois, de choses comme ça. Il y a un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la décision de qu'est-ce que c'est que la musique qui est adaptée, qui est intéressante, qui est importante de mettre en avant. Ça, c'est un truc d'humain. Et ça sera toujours un truc d'humain. Enfin, l'idée, c'est que derrière, les algorithmes peuvent utiliser cette information pour recommander au plus grand nombre et adapter au goût de chacun. Mais il y a un moment donné où il y a une forme de curation. Tu vois, plus c'est facile de créer de la musique, plus c'est important qu'il y ait de la curation humaine derrière.
Mais surtout, tu vois Deezer demain employer 10 personnes de plus pour faire ça ?
Ouais, bien sûr. Bien sûr,
mais surtout, ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'il n'y a pas cette opposition entre les éléments curateurs humains et les algorithmes. En fait, nous, on travaille avec les équipes éditoriales parce que notre algorithme, c'est un algorithme qui est créé avec des modèles mathématiques, mais qui a vocation à servir les utilisateurs brésiliens, finlandais, français, des utilisateurs fans de métal, fans de certains héros, etc., etc. Et autant, dans notre équipe, on a mis à la musique, on n'est pas expert total de la totalité des musiques. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise l'expertise des curateurs humains qui viennent nourrir notre compréhension, les résultats de l'algorithme. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'opposition. Et si on veut parler du futur, moi, je vois vraiment l'hybridation, en fait.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais parfois, la question économique, alors, c'est pas votre cas, apparemment, mais parfois, la question économique aussi, elle tranche à ce niveau-là.
Elle se pose, mais ça a de la valeur, à la fois dans les playlists et dans le choix qu'il fait, mais aussi dans notre travail, enfin, dans notre collaboration en interne. Donc c'est une valeur, c'est pas un coût à éliminer.
Et en plus, je te dirais que toutes les plateformes de streaming qui ont existé dans le passé, qui ont fait le choix de ne pas avoir des équipes éditoriales fortes, elles ont disparu.
Les plateformes qui mettaient l'accent sur la qualité des fichiers ou ce genre de choses aussi, toutes n'ont pas survécu, tu vois. Je pense que la curation, c'est ce qui a permis à des...
Ouais, je vois que le truc de Neil Young sur la qualité des fichiers, ça s'est bien planté, la Pogno, je sais plus quoi.
Pogno, hein.
Ouais, ouais. Puis non, mais il y avait d'autres trucs, en fait, où on proposait du qualité SACD, en fait, on s'en fout, on écoute ça dans le métro.
Non, après il y a le modèle Qobuz.
Ouais, mais c'est pas
évident.
Ils ont pas 90 millions de...
Cobuzz, c'est une grosse équipe éditoriale.
Et ça oui.
Une grosse partie de leur valeur ajoutée, c'est l'éditorialisation et le choix de...
Est-ce que vous voyez du coup, là, pour vous, donc, le streaming, c'est évidemment l'avenir de toute façon.
Ça s'est commodisé, si tu veux. C'est comme,
Même plus simple que de faire autrement. Donc,
Les gens se sont habitués à la radio, ils sont habitués à écouter sur support, et maintenant ils sont habitués au streaming. Ça fait partie des outils et de la façon d'écouter de la musique, c'est rentré dans les usages, il n'y a pas de raison.
Vous voyez une évolution sur ce sujet-là, par exemple, je ne sais pas, la possibilité d'avoir accès à un même morceau où tu peux dire j'enlève la batterie, j'enlève la basse, j'enlève le, tu vois, le multipiste, comme si. moi je suis dans le turfu.
Mais ça a déjà été réfléchi par les plateformes, les STEM, non?
Kanye West avait. À ton âme.
Ah, avec son truc là.
Eh oui, il avait fait son petit truc, mais c'était ça, basiquement. Tu peux choisir quelle piste tu veux écouter sur le morceau.
Ça, c'est vraiment pas de la science-fiction. C'est-à-dire qu'en vrai, on pourrait développer des technologies qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'écoute active. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur, la personne qui écoute le morceau peut influer sur le mix lui-même. Après, t'as une forte résistance des créateurs à mettre dans les mains des utilisateurs la capacité de modifier leur œuvre. Et ça, je peux comprendre complètement.
Oui, mais en fait,
d'un point de vue scientifique, c'est pas complètement impossible ce que tu dis.
Ouais, bah j'aimerais bien. Soit par un algorithme qui rétro-engénère la chanson pour isoler les pistes, soit directement le le mec qui donne son morceau, plutôt que de filer un morceau global, il file toutes les pistes de sa session et puis.
Bah ça c'est un vrai sujet.
Ça j'adore rien. Hein, ça, ouais. Ça les samples et tout, moi je suis client là.
Bah j'ai peut-être un truc pour toi si tu veux.
Ok, d'accord. ça m'intéresse. Ça.
Bref, oui, on essaye à chaque fois quand même de finir un épisode en écoutant un tout petit peu de musique. On se fait un extrait d'un morceau que vous avez poncé récemment, que vous adorez, qui vous a marqué. Est-ce que vous avez en tête un petit morceau de musique? Choisir, c'est renoncer, on le sait, c'est compliqué. On ne vous jugera pas. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez adoré écouter ces derniers temps?
Ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup trop écouté Si Tangana.
Ok, alors je connais pas, on va chercher ça. Mais garde en tête un morceau.
Ouais, tu peux trouver sur Deezer un morceau qui s'appelle Mématen.
C'est pas Deezer, là.
Oh, si, sur Deezer, bien sûr. Alors, il est peut-être pas sur les concurrents. Et c'est un morceau qu'il a fait en Tiny Desk.
Ok.
Concert, et Mématen, et c'est ouf.
Sinon, au pire, on peut regarder sur YouTube. Est-ce que toi, tu as un morceau aussi
on
en tête?
On prend un peu de cours. Alors,
ouais, réfléchis.
Je pourrais te conseiller un petit artiste qui monte, qui s'appelle The Weeknd, mais je pense que c'est pas la pure recommandation, mais sinon... J'ai vu en concert, et pas très longtemps, un groupe qui s'appelle Cocoroco.
Ok.
Et qui est un album extrêmement bien. Le dernier album de Cocoroco.
Eh ben, on va écouter ça. Das, toi aussi, t'as Rocco?
Ouais, je me rappelle plus de ce que j'avais Rocco la dernière fois. Du coup.
Ouais, on fait pas le même,
c'est ça. Non, on va pas faire le même. On va partir sur du D.R. Hooker.
Ok. Bon, réfléchis. On commence avec nos invités.
Ouais.
Tu penses que c'est pas trouvable? Comment ça s'écrit, dis-moi?
Alors, mais. M-E et Maten, M-A-T-E-N. C'est en espagnol, je parle pas l'espagnol.
Ah, il me tue. Mais Maten.
Si Tangana.
Live à Tiny Desk.
Ouais, ça c'est trop bien.
Eh bien écoute, donc c'est Si Tangana, Antonio Carmona, mais Maten. Je sais pas comment faut prononcer. Mais...
Ouais, faut regarder la vidéo aussi, c'est.
C'est vrai.
C'est assez extraordinaire.
Allez, on commence à s'écouter un extrait en tout cas. C'est rythmé.
Sont une quinzaine autour de la table.
Ok. Donc tu conseilles d'aller voir la vidéo?
Ouais, c'est super.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido.
C'est très doux, très joli, très beau.
Je dois remercier Gabriel, qui est un membre de mon équipe, qui est espagnol, qui m'a recommandé ça.
Bah écoute, c'est très bien. On met pas plus parce que pour les droits, on essaie de... tu sais, Daz, la dernière fois, on a parlé d'ailleurs le podcast avec Julien. On avait beaucoup d'extraits. On a dû... Les Beatles, ça nous a tués. Hein.
Ah bah...
les Beatles, ça nous a tués. On a dû l'enlever. Bon bref, relou. Merci beaucoup pour cette découverte.
Je peux te proposer du
quoi alors?
Cocoroco, un groupe que j'ai découvert il y a pas très longtemps avec un de leurs titres Abusei Junction.
Ouais. Eh ben écoute, Cocoroco Abusei Junction.
On est très acoustique hein, chez
Deezer. C'est très.
C'est des Français, c'est des Américains, tout ça, c'est, ils viennent d'où? Ils sont
de Grande-Bretagne, ils sont anglais. Ouais. Okay.
On est sur de la grosse intro, j'avance un petit peu pour...
tu peux avancer. Ouais.
Allez. C'est la douceur aussi, Daz, là.
C'est la douceur. J'aime bien.
Mais c'est très compliqué d'avoir un seul titre, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est la diversité des écoutes, des ambiances, des humeurs. Et que, voilà.
Tu travaillerais pas chez Deezer, toi?
Là, il te remet son algo, là.
Son algo, exactement.
C'est purement instrumental?
C'est purement instrumental.
Ok. Je crois que ça y est, les gens pour le petit café du matin ou pour le chill du soir, ils ont ce qu'il faut, ils ont deux morceaux adaptés. Daz, toi c'est dans le même esprit ou pas?
Ouais, moi je suis sur un hippie total là.
Je rappelle juste où c'était Cocoro Abusei Junction.
Cocoroco. Oui. Ouais, moi on va s'écouter un mec qui s'appelle D.R. Hooker. Hooker comme les prostituées slash la série avec...
D.R. comme docteur un peu ou...
Ouais, D.R. Hooker.
Ok, comme ça.
Voilà, et le morceau s'appelle Fall in Love.
Eh bien.
Tu vois, le mec, il ressemble un peu à Jésus, mais avec une guitare.
C'est vrai. Oh, ouais. Attends, c'est du rap ou non, c'est pas du rap?
Non, pas du tout.
Oh!
Ah non, non, là, on est dans.
T'as choisi un morceau qui n'est pas du rap.
Ouais, là, le mec, c'est un hippie. Mais comme je savais pas, je sais que j'ai proposé du rap la dernière fois, je me suis dit là, je vais leur mettre un truc, je suis sûr que
ça va varier un peu.
C'est un peu hip-hop quand même.
Ouais, dans l'esprit.
Hip-hop lofi.
C'est inclassable. Le mec est un hippie. Et ça a un peu rentré dans une playlist soul. Attention, ça va démarrer. Attention. Attention. J'aime beaucoup. Là, je tue YouTube. Ils peuvent pas couper. Attention.
Ah, arrive ou pas?
Ah oui. C'est très doux. Et à la fin, justement, de ce morceau, il y a un solo de piano-guitare.
Et t'aurais aimé le chapitrage.
Mais voilà. Je comprends. Ne serait-ce que pour toi, pour pouvoir dire, tiens, là, c'est l'intro, là, c'est plus l'intro.
C'est vrai que ça m'aiderait. Je réclame cette feature maintenant.
Ok, ok, on va bosser dessus, on va bosser dessus.
Donc, Fall in Love.
Fall in Love, très bien. Mais moi, il faut choisir un truc doux maintenant, parce que j'avais pas choisi ça à la base.
Si tu mets de la hard tech, ça va pas passer.
Non, je vais prendre un truc à peu près. Allez, tiens, c'est quoi, je vais mettre ça. Le morceau s'appelle Mango, c'est de, alors je sais même pas comment faut prononcer ça, Adi Oasis.
C'est encore un de tes trucs sud-africains, ça?
Non, pas du tout. En plus, je crois que c'est un américain, Kamau. Okay. En plus, c'est un gros tube, je crois que ça a bien marché ce morceau. Bref, on se l'écoute.
Ok. Hey. C'est très moog, j'aime bien.
Petite voix à la LJ un peu.
Ouais, c'est vrai, à ce côté-là. Et il y a un petit grain aussi. Childish Gambino, froid.
Un peu, ouais. Et Alabama Shakes aussi, dans l'esprit. Mais pas les mêmes rythmiques.
J'avance un poil.
C'est sympa ton affaire.
Oui, c'est frais. Il a une voix très cool.
Bref. Là, par exemple, moi je préférerais rester sur le Moog. J'aimerais bien qu'on puisse enlever les voix, par exemple.
Ah, voilà. Tu veux les stems, toi?
Bah, j'aimerais bien, ouais. On dit stem chez les gens.
Tellement de requêtes.
Moi, j'aime
ouais,
juste le
multipiste.
Oui, la session en fait, studio, session, voilà. Si tu veux, tout simplement, voilà.
On peut faire ça.
Oh, ce serait chouette.
Bon, c'était. Il est de New York, tu vois, Kamau.
Mmh, ok.
Et le morceau s'appelle Mango. C'est frais, c'est sympathique. C'était pour compléter un peu ça. À la base, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est très bien.
Ouais, mais moi non plus, hein, j'ai trouvé au pif. Donc voilà. C'est ça aussi, les recos. C'est la sérendipité.
Exactement.
Merci les gars d'être venus nous voir.
Merci beaucoup.
Merci.
Manu Thomas, c'était ultra cool, ultra intéressant. Merci beaucoup.
Ouais.
Daz, c'était un plaisir. On remercie évidemment la bouclette.
Mais bien sûr, la bouclette.
La bouclette qui nous accueille à chaque fois. Ils sont incroyables.
Thomas,
ils sont
beaux.
Ils sentent bon.
Élie et Jean-Michel.
Absolument. Merci aussi à Thomas, évidemment, de soutenir cette émission. Elle n'existerait pas sans eux. Et c'est important que DLT existe.
Voilà. Dorzen. Je parle le langage de Thomas.
Tu parles très bien, absolument.
Eh oui.
Écoute, ça parlera allemand bientôt dans ce podcast.
Oui, bien sûr. Dans 15 jours.
Dans 15 jours. On revient dans 15 jours.
Reco full allemande.
Reco full allemande. Eh bah, tu sais quoi,
c'est quoi le défi? Vas-y, je suis chaud.
C'est ça la prochaine.
Allez, c'est parti.
Mais on n'impose pas ça à l'invité par contre, parce que c'est
non,
chaud.
Non, ça va.
Bref, on se retrouve dans 15 jours. Ciao tout le monde.
Ciao. Bye.